سيدنا رسول الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا خير خلق الله، عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه. شاف خاشر سور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On a parlé dans la croyance. On a terminé les attributs d'Allah, c'est ça. On n'a rien fait après. On va parler des noms d'Allah. Alors, pour tout ce qui est la question des noms d'Allah, on a des hadiths qui parlent des 99 noms. D'accord ? Mais les 99 noms, les 99 noms qui sont cités dans un hadith, on a des noms d'Allah qui sont cités dans le Coran. On a les noms d'Allah qui sont cités dans un hadith. On a les noms d'Allah qui sont cités dans un autre hadith. Mais quand on fait l'addition, ça ne nous donne pas 99. Ça nous donne plus de 99 noms. Alors, ça ne veut pas dire que le hadith n'est pas bon. Mais le hadith ne dit pas qu'il n'y a que 99. D'accord ? Quand je dis, toi par exemple, tu as... toi, tu possèdes 1000 euros. Je sais que tu possèdes 1000 euros. Ça ne veut pas dire que tu possèdes que 1000 euros. Juste, je sais que tu possèdes 1000 euros. Vous avez compris ? Alors, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit : « Oh Allah, je vais dire en arabe pour me rappeler, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في عالم الغيب. Donc on a un dua du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit, il implore Allah, il demande à Allah par ses noms. Alors il dit, oh Allah, je te demande, اللهم اسألك بكل اسم هو لك. Je te demande par chaque nom qui t'appartient. أو أنزلته في كتابك, ou que tu as fait descendre dans ton livre. Dans ton livre, ça ne veut pas dire que le Coran. C'est-à-dire que dans la Torah, dans les évangiles, dans les anciens écrits, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à ses prophètes par ses noms. Donc on a des livres anciens où il y a des noms d'Allah qui ils existent dans un livre, ils n'existent pas dans un autre. D'accord ? Ou anzalta fi kitabik, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou un des noms que tu as appris à un de tes bien-aimés. Donc le hadith ne dit pas que je te demandais Allah par un nom que tu as appris au prophète. Mais il nous dit, ou tu as appris à un de tes serviteurs. Bien sûr, Allah ne donne pas son nom, ne dévoile pas un de ses noms à n'importe qui, pour que la personne soit pieuse. D'accord ? Mais il n'a pas, le prophète n'a pas spécifié le nom d'un prophète, ou c'est destiné à un prophète. Est-ce que vous connaissez Tierno Boukhar ? Vous êtes des faux africains, les frères. Vous connaissez ? D'accord. Vous connaissez Tierno Boukhar. Il faut lire à Tierno Boukhar. Donc on a des écrits africains qui nous parlent de quelques... Tierno Boukhar parle de des saints africains. Il parle d'un saint que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un de ses noms. Allah lui a donné, il lui a donné un de ses noms parce qu'il le voyait en flash, ce nom-là, depuis, depuis qu'il était jeune. C'est pas quelqu'un de pieux, hein, c'est pas... Il parle d'un quelqu'un qui va devenir un saint, mais depuis son jeune âge, il voyait un nom qui s'affichait, mais il savait pas c'est quoi, comme un éclair, comme ça. Et ensuite, il a pris l'âge, donc il rencontre Lui, il raconte l'histoire d'un saint. Et il raconte, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai lu le titre du livre. il rencontre des grands savants qui cherchent qui cherchaient le pôle, on va dire, dans le soufisme. C'est le pôle, c'est le stade suprême dans la spiritualité, hein, chez les soufis. Ils cherchaient c'est qui le pôle de cette époque. Mais bon, alors ils savent que le pôle de cette époque, eux, ils ont eu dans les écrits de leur maître, de leur chouyour, il y a le nom divin, mais il manque une lettre dans ce nom-là. Qui connaît cette lettre? Alors lui, bon, c'était quelqu'un de pieux, mais il se dit pas, c'est moi, bon. Il se dit, bon, les gens, on leur montre, allez, quelle est la lettre. Et lui, donc, dès qu'il a vu ce nom-là, il s'est rappelé du flash, que c'est écrit en arabe, hein. Il s'est rappelé du flash qu'il voyait tout le temps, et leur a donné la lettre qui manquait, parce qu'il y avait un nom, il manquait une lettre, c'est quoi? D'accord? Donc il leur a donné, il leur a dit, oui, je connais ce nom-là, c'est cette lettre. Donc il le reconnaît, il dit, c'est toi le pauvre. D'accord, c'est un signe. Hein. C'est pas une histoire. On n'est pas dans l'obligation de la croire, mais quand même, c'est une histoire qui est rapportée par des gens, c'est-à-dire pieux. C'est pas, ils n'ont pas de, ça les chante pas de raconter des bobards. Hein. C'est des gens, ils s'en foutent les soufis. Hein. Tu les crois pas, c'est pas leur problème. Ils ont un cheminement envers Allah. Ils s'occupent de la spiritualité et ils éduquent les gens. Et puis c'est tout. Hein. C'est alors, cette question des noms, donc on a des noms d'Allah que Allah a appris à ses bien-aimés. D'accord? Alors, rappelez-vous, quand on a parlé du prophète Salomon, Suleyman, je vous ai raconté l'histoire ou non? Avec la reine de Saba. J'ai raconté. Hein? Alors, lui, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait montrer à la reine de Saba que c'était quelqu'un qui a un grand pouvoir. Hein, on a compris, il a un grand pouvoir. Alors, bien sûr qu'il lui montre son armée, lui montre. On a dit dans son armée, il y a des humains, il y a des djinns, il a une puissance extraordinaire. Hein. Et parmi les djinns qu'il a, il y en a ceux qui volent, ceux qui rentrent, c'est-à-dire qui nagent dans la mer, dans les fonds de l'océan. Il y en a qui ils font des grandes statues. Hein. Le Coran al-Karim, il parle de Yasna'un al-Tamathil, avec des grandes statues, etc. C'est vrai que c'était des sculpteurs. Hein. Mais il voulait intimider cette reine, lui montrer qu'il a un grand pouvoir. Pourquoi il veut lui montrer ça? Il veut lui montrer que malgré tout le pouvoir que j'ai, je suis rien devant Dieu. D'accord? Pour la faire venir à la foi, parce qu'elle faisait partie d'une communauté qui adorait le soleil. Alors, il a réuni ses compagnons, c'est comme on dit les sahaba, compagnons, il y avait des humains, il y avait des djinns. Tous les compagnons d'un prophète, tous c'est des gens pieux, hein, c'est clair. Il leur a dit, qui parmi vous peut me ramener son trône avant qu'elle arrive? Donc, entre le Yémen et Jérusalem, il y a à peu près, ils ont l'équivalent d'un mois, c'est-à-dire une caravane qui marche. Mais lui, il veut maintenant, parce qu'elle est en cours de route. Alors, il y en a un, il a dit, moi je peux te le ramener avant que tu te lèves de ton siège, avant que tu te lèves. Et il leur a dit qu'il dit mieux. Un autre lui a dit, moi je peux te le ramener avant que tu me fermes ton œil et que tu l'ouvres. D'accord? Comment on dit en français? Hein? Un clin d'œil. Un clin d'œil. J'imaginais. Il peut ramener un trône. Et encore, le trône de la reine de Saba, il est pas en plein air. Hein? Et déjà, il est lourd, il est plein de d'or et d'argent, de diamants, etc. Et il est dans un château entouré de... Il faut, c'est-à-dire pour y arriver, il faut passer par 7 grandes pièces. Et chaque pièce, vous avez une armée qui le surveille. Donc, comment tu peux le faire? En plus, il est... c'est pas un chien. Hein. C'est qu'un grand... Alors, lui, les ulama, ils ont dit... Comment il peut le faire? Comment il peut le faire? Ils ont dit, il avait le nom d'Allah, à partir duquel, quand tu invoques Allah, ton dua, il est exaucé. C'est la question des noms. Oh Allah, je te demande par ton nom, tel. D'accord? Et, sans dire, bien sûr, Allah ne le donne pas à n'importe qui. C'est-à-dire, ils ont dit, tout simplement, parce qu'Allah peut tout faire, c'est vrai ou non? C'est pas sa puissance à lui, c'est la puissance d'Allah. Il demande, ya Allah,
que ce trône soit ici, en un clin d'œil. Par ton nom. Ça revient à la question des noms. D'accord ? Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Oh Allah, je te demande, par l'Amaïs al-Kabikulli, par tous tes noms, « Kulis manu walak » que tu as révélé dans un de tes livres, ou tu as appris à un de tes bien-aimés, ou tes noms, tu demandes par tes noms que personne ne connaît. Il y a des noms que Allah les a réservés à lui, on ne les connaît pas. Donc les noms d'Allah ne sont pas limités aux 99. C'est-à-dire les 99, ce sont ceux que le prophète nous a appris. Il y en a des noms. Ils sont déjà, d'ailleurs ceux qu'on a, qu'on connaît. Alors, vous avez l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. Beaucoup ne savent pas que l'imam al-Qurtubi, regardez, il a écrit un nom sur les noms divins. Al-Qurtubi, on ne le connaît que le Mufassir. Il a écrit un nom, un livre sur. Il nous rapporte hein, tous les noms selon les hadiths. D'accord ? Il y a plein, d'accord ? De noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dépasse les 99 noms. D'accord ? Alors, je vous laisse, je vais pas citer les noms d'Allah. Je vous laisse, c'est quoi les ouvrages intéressants sur les noms d'Allah, je pense. Abdallah Penaud, il a écrit un livre, non? Je pense qu'il a écrit, non, il n'a pas écrit. De toute façon, vous avez un livre de l'imam, je ne sais pas s'ils sont traduits même, de l'Razali. Vous avez des livres intéressants sur les noms d'Allah où vous trouvez le nom, sa signification. Franchement, je suis incapable de vous dire que si... Je vais voir. La prochaine fois, je vous dirai quels sont les... S'il y a des livres intéressants en français. Oui.
Il y a Maurice Bloton qui en a écrit un.
Spécifique sur ça?
Que sur les noms.
Ah ben, c'est très bien. Si c'est Maurice Bloton qui a écrit, sans voir, je vous dis, il est bien. Donc, si vous avez le nom, on aimerait bien, comme ça, tout le monde en profitera. Alors, si c'est Maurice Bloton... Moi, c'est quelqu'un de crédible, c'est un chercheur, un très bon chercheur, objectif, etc. D'accord ? Alors, voilà la question des noms d'Allah. Donc, chaque groupe de noms d'Allah, ils sont, on va dire, regroupés sous un attribut. C'est-à-dire l'attribut de la puissance. Vous avez tous les noms d'Allah qui parlent de la puissance, c'est-à-dire ils sont sous cet angle-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Est-ce que les noms d'Allah, est-ce qu'on peut donner à Allah, nous, un nom ? On n'a pas le droit. Tu ne peux pas, toi, donner un nom à Allah. Par exemple, parce que Allah se définit à nous, c'est à lui de nous dire quels sont ses attributs, c'est à lui de nous dire quels sont ses noms. Et tous les noms d'Allah s'appliquent sur lui. D'accord. Je vous ai donné un exemple, El-Karim, le généreux. Allah, c'est-à-dire, il est vraiment par excellence le généreux. Par contre, les humains, tu peux trouver quelqu'un qui s'appelle Karim. Ah, ben Karim, bonjour Karim. Mais lui, il est radin. D'accord. Donc, pas forcément un être humain, son nom s'applique sur lui. C'est-à-dire, mais Allah, tous ses noms, c'est vraiment, c'est-à-dire... Le sens de ces noms-là s'applique sur Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon parfaite. D'une façon parfaite, complète. D'accord. Alors, on n'a pas le droit de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des noms qu'il ne s'est pas donné. Asma'ullah. Alors, c'est bien de les apprendre, les noms d'Allah. Et je vous ai dit la dernière fois, que par métaphore, on peut, c'est-à-dire, tous les noms d'Allah, on le rajoute le mot abd, serviteur. Abdul Qadir, Abdul Hafid, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Qayyum. Hein? C'est ça. Mais est-ce que tous les noms, si je veux dire, on a le droit de dire à quelqu'un Karim. Mais normalement, Abdul Karim, serviteur du généreux. Mais pourquoi on peut dire Karim ? Parce que, tout simplement, Allah nous a délégué la gestion des choses matérielles. C'est-à-dire, tu peux donner. Donc, tu es Karim, tu es généreux. D'accord ? Par métaphore. Mais les choses, on a dit, les bienfaits immenses qui concerne la santé, la guidance. Il y a des choses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas guider quelqu'un. Ça, tu l'invites à la guidance, mais tu ne peux pas lui dire « Allez, guide-toi ». Ou bien tu vas lui dire « Aime-moi ». Sinon, bah, il va dire « Je t'aime, mais bon, il te déteste à mort ». C'est-à-dire, il y a des choses qui sont les bienfaits immenses, seul Allah qui peut les donner. Donc, par métaphore, on ne peut pas appeler la personne par métaphore. Par exemple, Ar-Rahman, on a dit, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On a dit Ar-Rahman et Rahim. Rahim, c'est un des noms d'Allah qui concerne les bienfaits matériaux, par exemple. C'est-à-dire les bienfaits qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. Hein, que l'humain peut. Bah, par exemple, je peux te donner des choses. Hein. Donc, je peux dire que Fulan, telle personne, il est Rahim. Mais Rahman, je ne peux pas. Parce que Rahman, ça concerne les bienfaits immenses que seul Allah les donne. La guidance, la foi, la santé, toutes ces choses-là, l'être humain ne peut pas les donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé que son oncle, avant de mourir, fasse l'attestation de face. C'est vrai ou non? Il est resté devant sa tête jusqu'à la dernière semaine. Il a dit, dis au moins, il a Allah, j'implorerai Allah pour toi le jugement dernier. Et son oncle a dit, non, je ne dis pas parce que... L'argument c'est, je ne dis pas parce que si je dis, ils vont dire, il a peur de l'enfer. Et moi, je n'ai pas peur de l'enfer. Donc... Ensuite, la divergence entre quelques uns. On a quelques savants musulmans qui disent qu'il l'a dit et qu'il est mort musulman. Il y a quelques savants qui ont dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, voilà grosso modo la question des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va passer aux prophètes, les messagers aux prophètes. Alors, on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et il a envoyé des prophètes. Déjà, on commence par le nombre. On a dit, le nombre de prophètes qu'Allah a envoyés, il y a 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. On va faire la distinction. Le nombre de messagers, 315. Versions qui disent 313, on a un avis qui dit 314, on a un avis qui dit 315. Subhanallah, il y a quelque chose de mystérieux dans cette question-là. Le 315, c'est le nombre des compagnons du prophète qui ont participé à la bataille de Badr. Le 124 000, quelques ulama ont dit que c'est le nombre de la totalité des compagnons des prophètes. C'est incroyable quand même. Le prophète, il avait beaucoup de compagnons. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la définition d'un compagnon? Ce sont ceux qui ont rencontré le prophète, ils l'ont vu, et ils sont morts en tant que musulmans. Ceux-là, c'est des compagnons. Vous avez compris? Toute personne musulmane a rencontré le prophète, à condition qu'il l'a vu. Sauf ceux qui étaient aveugles, ça... Ils sont compagnons. Et les élèves des compagnons, on les appelle les tabi'in. Qu'est-ce que ça veut dire tabi'in? Tabi', celui qui suit, hein, les suiveurs. La même chose, est-ce que de n'importe qui on peut dire tabi'in? Non. Un tabi'in, il faut que ce soit quelqu'un qui a rencontré un compagnon et qui l'a vu. Il a vu le compagnon et il est mort en tant que musulman. Alors, vous ne vous posez pas la question de qui l'a vu? Pourquoi il l'a vu? Vous pouvez dire, il a entendu. Non, il l'a vu. Alors là, c'est les soufis qui interviennent. Ils disent abreuver quelqu'un. C'est-à-dire, le regard, il a. Ça, tu fais le moulaqat ou moussaqat. La rencontre, c'est l'abreuvation. C'est-à-dire, même si tu rencontres quelqu'un, il y a plein de fois, tu rencontres, le prophète Salas nous dit, al-arwah ou junud ou mujannada. Les âmes, ce sont comme des armées. Il dit, les âmes, des fois tu rencontres quelqu'un, il rentre dans ton cœur, même, tu ne l'as même pas parlé. Ça, il dit, le prophète dit, les âmes, elles sont comme ça. Des fois, tu vois quelqu'un, hop, il rentre dans ton cœur sans que tu... Et des fois, quelqu'un, il ne t'a rien fait, mais tu dis, comment il ne passe pas. C'est vrai ou non? Là, le prophète, il parle. Aujourd'hui, on parle des ondes, je ne sais pas, les ondes, tu peux appeler les ondes, le prophète, il parle des âmes. D'accord? Bon. Alors,
cette question de moulaqat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il abreuve avec son regard, c'est-à-dire, il est tellement rempli de spiritualité, il remplit la personne avec le nour, avec la lumière, avec sa rahma qui dégage dans ses yeux, et qu'il a donné à ses compagnons. Et à leur tour, les compagnons donnent cette spiritualité qu'on ne peut pas voir. D'accord ? Juste le fait de s'asseoir avec ces gens pieux, des fois tu es devant quelqu'un qui est pieux, il dégage quelque chose, tu es devant lui, c'est comme si c'est un roi, mais il n'a ni armée ni rien du tout. Mais tu peux... Un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Zin al-Abidin, écrivait son nom, Zin al-Abidin, c'est un descendant du côté de Hussein. Il a échappé, Zin al-Abidin, il était bébé, il a échappé à la décapitation contre Hussein. Alayhi salam, il a été attaqué avec le groupe là, et il était bébé. Alors, un descendant du prophète, une fois, il y avait le calife, vous savez, dans le tawaf autour de la Kaaba. C'est pas évident de toucher la pierre noire. Hein. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Dès que tu t'approches, la vague, elle t'éjecte. Donc, le calife de l'époque voulait aller toucher la Kaaba, avec l'armée, la police. Ils font dégager les gens, c'était impossible. Les gens, ils font le tawaf, et tout le monde veut toucher la pierre noire. On dit que la pierre noire, c'est une pierre qui vient du paradis, mais on ne sait pas, on dit. Mais bon. Cette question du pierre noire, attention, Daesh n'existe pas qu'aujourd'hui seulement. Dans l'histoire de l'islam, il y avait des Daesh. Il y avait un groupe insecte qui s'appelait Qalamita. Qalamita, c'était des gens qui ont attaqué la Mecque, ils ont volé la pierre noire, ils sont partis dans le désert, elle est restée 15 ans ou 16 ans, la Mecque, il n'y avait pas la pierre noire. Elle est restée, ils l'ont accaparée. Donc, il a fallu faire une autre armée, aller les attaquer pour récupérer la pierre noire. Il y avait ce problème-là de la pierre noire, on voulait la récupérer. Alors, lui, il voulait, ce gouverneur, ce calife, avec la police, il voulait toucher. Rien du tout. Et ce descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Zain al-Abidin, il n'a ni armée avec lui, ni rien du tout. C'est un alim, waliullah. Un descendant du prophète, un grand savant, il s'approchait. Dès qu'il s'approche, les gens qui étaient là sont arrêtés. Ils lui ont fait un couloir. Et pourtant, c'était... dès que tout le monde l'a vu, c'est-à-dire c'est un roi sans armée. C'est-à-dire, regardez, il dégage quelque chose. Tout le monde sait que c'est un descendant du prophète. C'était un grand savant, sage. L'autre, le calife, avec l'armée, pousse les gens, les frères, machin... Ouais. Il lui dit qu'il voulait, ils se sont arrêtés tous, ils lui ont fait un couloir, il est allé jusqu'à la pierre noire, il l'a embrassé, ensuite il est retourné. Alors vous imaginez, le calife, il était là. Il a dit, mais c'est qui celui-là? Tout le monde lui a laissé un chemin, moi avec mon armée, machin, c'est quoi? Il y avait un grand poète qui était là, et il a écrit sur place une poésie, en arabe. Et les poètes arabes, quand ils voient quelque chose, ça lui monte à la tête. Directement, un vrai poète, c'est comme ça. Hein. Il voit une image, hop, il va te sortir un poème, on dirait, il est resté un an à réfléchir. Ils sont tellement dans le verbe. Alors, je vais vous donner le sens. Il lui dit, « Wa laysa qawluka hadha bi dha'ilihi. Al-arbu ta'rifu man ankarta wal-ajamu. Hadha alladhi, in kunta tunkiruhu. فأنبياء الله بجده قد عرفوا هذا الذي لم يقل لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم نعم. Je vais vous traduire. Il dit, celui-là dont tu dis, c'est qui celui-là, ne domine rien en sa valeur. C'est-à-dire, il dit, c'est pas en te disant, c'est toi qui le connais pas, tout le monde sait. Lui, il dit, car les prophètes, tous les prophètes, se sont reconnus par son grand-père. Donc il lui dit que les prophètes, tous les prophètes connaissent son grand-père. C'est-à-dire tous les prophètes se connaissent entre eux. Ils connaissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadha alladhi, il lui dit, celui-là, dans le grand-père, il n'a jamais dit non dans sa vie. Parce que le prophète, il ne dit pas non. Celui qui veut lui demander quelque chose. À chaque fois qu'on vient lui demander, il n'a rien. Le prophète. D'ailleurs, tous les prophètes, hein, ce n'est pas des gens, à part Salomon, Suleiman, qui était un roi et prophète. Tous les autres prophètes, c'est des gens qui n'ont rien du tout. Hein. Ils ont tout, mais ça, de la vie matérielle. Ils ne veulent pas cette vie-là.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait des montagnes, lui disait, Rasulallah, on peut se transformer en or pour toi, si tu veux. Il dit, non, non, restez comme vous êtes. Donc, il lui dit, il lui dit, ce savant, son grand-père, celui dont le grand-père n'a jamais dit non. Là, en arabe, c'est dire non. C'est-à-dire, tellement il est généreux. Le prophète, les gens, ils viennent lui demander, donne-moi. Une fois, il y avait le prophète, il avait un troupeau de moutons, de chèvres. Il y avait un bédouin qui est venu. Il est venu voir les gens de Quraysh. Et pour se moquer de ce bédouin, les gens, il demande la mendicité. C'est un bédouin, il vient, c'est-à-dire le badia, c'est-à-dire il n'est pas de la ville. Il ne connaît pas le prophète. Il est allé, il a vu un groupe de gens de Quraysh, mécréants, il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Pour se moquer de lui, on dit, va, parce que l'autre, il va te donner là-bas. Ils l'ont envoyé vers le prophète. Et au fait, ils l'ont envoyé pour se convertir. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, eux, c'est pour se moquer de lui. Va, l'autre, il va te donner là. Lui, il est allé vers le prophète. Il lui dit, l'arabe, beau frère d'Arabie, on m'a envoyé vers toi, on m'a dit que tu peux me donner quelque chose. On m'a dit, tu veux quoi? Il dit, je suis pauvre. Il lui dit, tiens, le troupeau est à toi. Il lui a donné tout le troupeau. Puis l'autre, il est devenu fou. Il dit, c'est quoi ça? C'est qui celui-là? Et là, il commence à se renseigner. Ils lui ont dit, il se prétend être prophète. Il dit, je le crois celui-là. Regarde ce qu'il m'a donné. Il est devenu un compagnon. Donc, il n'a jamais refusé une demande à quelqu'un, le prophète. Une fois, les compagnons, ils étaient alignés pour faire la prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de, il faut que la ligne soit... Il y avait un compagnon exprès, il est sorti du rang. Et le prophète, il l'a repoussé. Il a dit, tu m'as fait mal, ya Rasulallah. Il lui a dit, tu m'as fait mal. Il lui a dit, tu fais quoi? Il lui a dit, je vais te refaire le coup. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, refais-moi le coup. Il m'a dit, moi, je ne veux pas sur les vêtements, je veux dans ta peau. Il m'a dit, il faut que tu me remontes. Je veux que tu remontes et je te touche comme tu m'as touché, tu m'as fait mal. Et le prophète, il l'a remonté. Et l'autre, il a plongé sur la peau du prophète, juste, il a trouvé une idée juste pour l'embrasser. En fait, il n'a pas arrêté de l'embrasser. Donc, quand il y a des compagnons qui lui demandent une chose, il leur donne. D'accord? Donc, la chose, elle n'est pas de l'ordre de l'interdit. Donc le poète, il lui dit, celui-là dont tu ignores, son grand-père, n'a jamais dit non dans sa vie, sauf dans l'attestation de foi. On dit, la ilaha illa, il n'y a pas de Dieu sauf Allah. C'est-à-dire, le mot là, il n'est pas familier à lui. Il lui dit, celui-là, il ne dit jamais non. Et si ce n'était pas l'attestation de foi, tout son non est oui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit non. Est-ce que vous avez compris un peu la métaphore? Pourquoi je me suis retrouvé ici? Alors, ça, c'est pour parler de la définition du compagnon ou du prophète, d'un compagnon, c'est celui qui a vu. On a dit, il y a quelque chose qui se dégage, qui se donne à travers le regard, d'accord? Alors, on a 124 000 prophètes. Alors, Les messagers cités dans le Coran, il y en a 25. On va les écrire. Alors, le premier messager, c'est qui le premier messager qu'Allah a créé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais déjà prophète quand Adam était entre l'argile et l'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a déjà créé, mais il n'est pas encore sur terre. C'est pour cela que Adam, quand il a commis l'erreur de manger de l'arbre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, je te demande de me pardonner par la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les anges, ils ont dit, comment tu connais Muhammad? Il n'est pas encore créé, il n'est pas encore né,
Il a dit, j'ai vu écrit sur le trône, qu'est-ce qu'il est écrit ? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. L'attestation de foi. Et j'ai su qu'Allah ne mettra jamais un nom devant le sien si cette créature n'a pas une grande valeur. Est-ce que vous avez compris ? Donc, le nom de c'est le Muhammad, il existe déjà. Avant, c'est pour ça que le prophète nous dit dans un hadith, j'étais déjà prophète, et Adam, il n'est pas encore créé. Il est entre l'eau et l'argile. On sait que Adam, l'être humain, il est créé d'argile. Celui qui dit non, on va lui dire, va faire des analyses de sang. Qu'est-ce qu'on va te donner dans les analyses de sang quand tu reçois les analyses ? Du zinc, sodium, potassium, ça c'est quoi ? C'est de la terre ou non ? C'est vrai ou non ? Ah ben, on est créé d'argile. Hein? Tu as du fer, tu as du zinc, tu as du potassium, tu as du magnésium, il y a tout. Il y a de l'eau, il y a tout. Vous êtes d'accord ou non ? Alors, كنت نبيا وآدم بين الطين والماء كما يقول صلى الله عليه وسلم. Le premier hadith que je vous ai cité s'appelle Tawassul Adam, la demande d'Adam à l'intercession du prophète صلى الله عليه وسلم. Il est rapporté par Ibn al-Jawzi dans son ouvrage Al-Wafa bi Huquq al-Mustafa. Il est rapporté par Ibn Taymiyyah dans ses grands fatwas et par deux chaînes de transmission. Il est rapporté par Imam al-Hakim. Il est rapporté par un nombre important de rapporteurs de hadith. Alors, qui sont ces prophètes qui sont cités dans le Coran ? On va les citer par ordre, Inch'Allah. Ce sont tous des messagers. Donc, on a dit la différence entre un messager et un prophète. Le messager, il ramène avec lui un message. C'est-à-dire, quand on dit un message, c'est-à-dire une législation. Législation, c'est-à-dire, soit il ramène un livre, soit il ramène des feuilles, soit il ramène des tables. De toute façon, il ramène quelque chose d'écrit. C'est-à-dire il ramène quelque chose de c'est-à-dire des feuilles, un livre, des tables, et que ça sort fait Moussa. Vous avez compris ? Par contre, un prophète, il ne ramène pas avec lui une législation. Un prophète, il vient sans livre, sans écrit, sans table, mais il vient juste soutenir un messager qui est dans son époque, ou bien un messager qui était avant lui. Il va dire, voilà, il faut suivre cette législation, et ceci, et cela. Ça, c'est le prophète. Par contre, un prophète, il peut avoir une législation spécifique à lui-même et à sa famille seulement. D'accord ? Ça, c'est restreint à lui et à sa famille. Alors, pourquoi la législation, elle peut être différente ? La législation, c'est quoi la législation ? C'est le droit. C'est-à-dire, ce qui est interdit n'est pas interdit, recommandé, etc. Hein, je vous ai dit le statut, le hukm en islam, c'est cinq choses. L'obligatoire, l'interdit, hein, le recommandé et le déconseillé et l'autorisé. On a parlé de ça. Hein? C'est-à-dire, dans la législation, c'est la façon de prier, la façon de jeûner, la façon de donner l'aumône. Ça peut être différent d'une communauté à une autre. C'est pas grave. Hein, un messager peut ramener une législation qui est différente à celui. C'est-à-dire, par exemple, un messager qui vient avant, peut-être qu'il va interdire des choses. Un messager qui vient après, il peut les autoriser, et vice-versa. Par contre, la croyance, elle est une. Tous les messagers, ils ont ramené la même parole. Qu'il n'y a de Dieu que un. Il n'y a pas un messager qui dit il y a deux dieux. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est chez les Grecs, la mythologie grecque. Dieu, 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 la mer, Dieu, Dieu. C'est-à-dire, ils se partagent. Oui.
Par exemple, qu'il y avait une législation propre à lui ou à sa famille, s'il vous plaît.
Shif, par exemple. Le prophète Shif. Shif, ça s'appelle comme ça. Shif. La majorité des prophètes, c'est des Israéliens. C'est des Israélites. La majorité absolue, écrasante. Ça appartient à... C'est des juifs. C'est le Coran qui le dit. Hein, c'est... Alors, on a 25 messagers qui sont cités dans le Coran. Le premier, c'est Adam. Alayhi salam. On va les écrire d'une façon chronologique. Le premier messager, c'est Adam. Alors, les salafis disent Adam n'est pas un messager, il n'est pas un prophète. On va leur dire... prenez un jus d'orange frais et restez tranquille parce que Adam il est messager, pas qu'on s'enchisse dans les catécoles. Donc il est envoyé à qui? Il est envoyé à ses enfants. Il est envoyé à qui? Ses enfants. Ses enfants, donc il leur apprend l'unicité d'Allah, il leur ramène une législation, comment prier, comment ceci, etc. Donc, premier messager, c'est Adam alayhi salam, Adam. Je parle de ceux qui sont cités dans le Coran al-Karim. Le deuxième, Idriss. Idriss. Il y a plein, hein, il s'appelle Idriss, mais c'est pas que c'est un nom d'un messager. Troisième messager, je vais un peu rapide. Noé. Regardez, juste le troisième messager. Noé, Adam, Idriss, Noé. Bon, il y a des prophètes entre eux, mais... on va dire, il y a pas beaucoup de, c'est pas énorme les siècles qu'il y a entre Adam et Noé, et l'humanité elle a dérapé. Ils adorent les statues, ils adorent machin, etc. Ils croient pas, etc. Alors on parlera tout à l'heure un peu des prophètes. Là, juste je vous donne les noms. Je parlerai quand je commencerai à parler de leur qualité, de leur etc. Alors on a Adam, Noé, Hud. Comment on l'appelle en français Hud? C'est Hud. Hud. En français, c'est Hud. Ah, d'accord. Ensuite, on a Saleh. Saleh. Ensuite, on a Ibrahim. Abraham. Ensuite, on a Ismaïl. Ensuite, on a Ismaïl, c'est le fils de qui? Ibrahim. Ensuite, on a Lot. Lot, il a un lien de parenté avec Ibrahim. Ah, c'est... Voilà, c'est ça. C'est son neveu. C'est-à-dire, le papa de Lot, il est le frère de Sidon Ibrahim. Ensuite, on a Ishaq. Qu'est-ce que j'ai dit? Ishaq. Ensuite, on a Yaqub. Jacob. Ishaq, c'est Isaac. Isaac. Oui. Yaqub, c'est Jacob. Ensuite, on a Youssef. Youssef, c'est Joseph. Hein? Ensuite, on a Ayoub. Ayoub, c'est Yop. Comment on dit? Hein? Job, d'accord. Ensuite, Shuaib. Right. Ensuite, Moussa, Moïse, Haroun, Aaron. Yak. Hein? Haroun. Younous. Après Haroun, on a Younous. Daoud, c'est David. Suleyman. Salomon. Ilyès. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Ilyès, mais ils ne savent pas que c'est un nom d'un prophète. Ilyès. Eliezer. Après Ilyès, il y a Eliezer. Zacharie. Yahya, après Zacharia, Yahya. Yahya, c'est Jean-Baptiste. Isa. Dhul-Kifl. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a combien? 25. Ça, ce sont ceux qui sont cités dans le Coran al-Karim. D'accord? Est-ce qu'il y a un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la nabi abadi, il n'y a pas. Alors, on a des faux prophètes, hein, ceux qui sont en proclame, il y en a même à l'époque des prophètes, Moussa ilim al-Kadhab, même... il n'y a pas longtemps en Inde, hein, ils sont en proclame prophète. La différence d'un prophète en Occident ici, on dit prophète,
Ce n'est pas la même chose qu'en théologie musulmane. Là, on est en plein théologie musulmane. C'est-à-dire, c'est-à-dire la définition d'un prophète chez nous, dans la croyance musulmane, ce n'est pas quand tu parles dans la rue, prophète. Dans la rue, monsieur tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a une prophétie, qui va dire des choses ou je ne sais pas quoi. C'est vrai ou non ? Il faut revenir toujours à la définition terminologique. Vous avez compris ? Alors, on a des poèmes. Hein. Quelques ulama, ils ont écrit des poèmes sur... Bon. Alors, tous ces messagers, si tu prends Al-Karim, nous sommes dans l'obligation de croire de leur existence avec leur nom. Pourquoi ? Parce que le Coran les a cités. C'est comme si tu le nies, tu as nié un verset. Est-ce que vous avez compris ? Tu n'as pas le droit de... une fois, j'ai rencontré un converti. Il me dit... un frère, bon, il est devenu musulman, alhamdoulilah, il me dit, moi, je crois pas au prophète David. Je ne crois pas. Ben, je lui dis, donc tu n'es pas musulman. Il me dit, comment ça ? Tu me fais sortir. Ben non, je lui dis, tu me dis, je ne crois pas à un prophète, c'est-à-dire que tu ne crois pas à un verset. Et qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Le roi t'a fait. Le prophète, Nabi Allah, Daoud, subhanallah. C'est un des bien-aimés d'Allah, c'est un des grands serviteurs, un grand prophète, subhanallah. Pourquoi tu... Je ne sais pas, il a un problème avec le prophète. Tu peux pas, c'est-à-dire la religion ne peut pas fonctionner comme tu veux, hein. c'est pas à la commande. Hein. Il veut que ça, aujourd'hui il nous sort Daoud, et demain je ne sais pas que c'est pas nous sortir. Ce n'est même pas une quête de recherche ou lui comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu dis, je veux comprendre l'histoire du prophète David, qu'est-ce qui s'est passé, il faut le Coran, Kadam, machin, etc. Oui, tu as droit. Mais tu n'as pas le droit de dire, moi je ne veux pas. Bah, tu ne veux pas. C'est ton problème. Mais on te dit la religion, comment elle est faite. Non. Alors.
On a dit que c'était des messagers ou c'est des prophètes ?
C'est des messagers et prophètes en même temps. Okay. Alors, tout messager et prophète. Et ce n'est pas tous les prophètes qui sont messagers. Parce que le messager, c'est un degré plus haut. D'accord ? Donc, tous les messagers, ce sont des prophètes. En même temps. Et ce n'est pas tous les prophètes qui sont messagers, d'accord ? Parce qu'on a 124 000, on a dit, prophètes. Hein, dans l'histoire de l'humanité, Allah a envoyé 124 000. C'est-à-dire à travers les temps et les espaces. Oui. Alors, ces messagers-là, Allah a envoyé avec eux, les messagers ont envoyé avec eux, un message. Un message, ça peut être des lettres, ça peut être donc une législation. À chaque fois que l'humanité dérape, Allah lui envoie un messager, un prophète. On a dit que il y a 5 grands messagers, on les appelle Ulul Azm. Ulul Azm. Ce sont les plus qui étaient éprouvés. Ulul Azm. Oulou al-Azm. Numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. Les 5 grands messagers. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 2, Sayyidina Ibrahim. On le surnomme Abu al-Anbiya, le père des prophètes. 3, Sayyidina Moussa, Moïse. 4, Sayyidina Isa, Jésus. Jésus, il était israélite ou non ? Oui. Et sa maman ? Aussi. Marie. Mariam. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit Jésus. C'est Isa. Et cinquièmement, c'est Noé. Noé. Donc ces 5 grands messagers, on les appelle Ulul Azm. C'est les 5 grands messagers. D'accord. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله دي سيدنا رسول الله patiente comme ils ont patienté les prophètes de Oul Azm, ceux qui ont été éprouvés, parce que ils sont très 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 éprouvés les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces messagers, tous ces prophètes, quand Allah les envoie, tous ces messagers, ce sont des gens pieux, ce sont des gens parfaits, ce sont des gens dans la droiture, ce sont des gens exemplaires. On ne peut pas, un messager, il est complètement à côté de la plaque, et Allah lui l'envoie pour qu'il soit un modèle. Ben non, tu envoies quelqu'un, c'est vrai ou non? Mais ici, même un simple imam qui guide la prière, il devrait être un exemple. Il vient nous faire le prêche, ensuite, juste à la sortie de la mosquée, il est la pire des choses. Non, quelqu'un qui est là pour guider les gens, il devrait être exemplaire, surtout un messager. Surtout. On va voir après leurs qualités. Vous avez compris? Donc nous, dans la foi musulmane, dans la croyance musulmane, avec tout le respect qu'on doit aux autres religions, chacun il dit ce qu'il veut, hein, dans les autres religions, il considère un prophète comme il veut. Mais on a le droit, nous, de dire, voilà, pour nous, vous pouvez être d'accord ou ne pas d'accord, mais chez nous, un prophète, c'est un homme parfait. Et Allah ne l'a pas choisi parce qu'il est très, 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 très pieux. Allah l'a choisi. Ce n'est pas parce que tu as atteint un degré de piété tel, ah, ça y est, tu deviens prophète. Non, 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 non. Hein? Comme a dit l'imam Laqani dans sa Johara. C'est pas une prophétie qui s'acquiert. C'est pas parce que tu es devenu pieux, ah tiens, tu vas acquérir. Attention, je vais devenir prophète. Hein, je vais bien être pieux. Oh, ensuite, devenir. Non, 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 non. C'est une faveur d'Allah. Il la donne à qui il veut. Est-ce que vous avez compris? C'est Allah qui choisit. Hein, pour des raisons que lui il crée, que lui il sait. C'est pas, il n'a pas de compte à nous rendre. Donc tous les prophètes, ce sont des hommes parfaits. Hein? On a un livre en arabe qui s'appelle, en parlant du prophète, Al-Insanul Kamil. Hein? L'imam Al-Jili. Il a écrit un livre qui s'appelle Insanul Kamil, l'homme parfait. Et en parlant du prophète, tous les prophètes, c'est des hommes parfaits. Est-ce que les prophètes commettent des péchés? Non, ils ne commettent pas de péchés. Ni grand, ni petit. Ni extérieur, ni péché intérieur. Les péchés intérieurs, c'est-à-dire du cœur. La jalousie, la haine, tout ça, machin. Non. On va voir quels sont les... Mais ils sont des humains ou non? Oui, ils sont des humains. On va parler après sur de leur qualité.
Même avant d'avoir reçu le...
Même avant d'avoir reçu la révélation. Mais même. Alors, n'écoutez pas les salafis qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas le prophète Shu'aib. Comment on le dit en français? Shu'aib, je ne sais pas. Shu'aib, j'ai lu Ibn Taymiyyah, il dit... que le prophète Shu'aib n'était pas croyant avant la révélation. Ça ne va pas? Comment ça, il n'était pas croyant? C'est des croyants. Tous les prophètes, c'était des croyants. Mais sauf que, avant la révélation, ils n'ont pas de législation. C'est ça quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran al-Karim, « وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَلَّكَ مِنْ أُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ضَالًّا فَهَدَى. Donc, dalen, si on peut le mot dalen, c'est-à-dire égaré, il t'a guidé. C'est pas qu'il t'a trouvé égaré, il t'a trouvé sans législation. Regardez, il ne faut jamais traduire le Coran, ce n'est pas parce que tu connais l'arabe, tu ne connais rien du tout. Il y a plein qui croient que le mot dal, en arabe, veut dire seulement, parce que le mot égaré en français, il n'a un seul sens, égaré. Mais le mot dal, en arabe, il a plusieurs sens. Parmi dal, il y a égaré. Il y a aussi, on parle d'amour, d'accord, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père quand il a dit, je sens l'odeur de Joseph, il n'est pas loin, parce que ça a été, ils lui ont dit, ça y est, il est mort, et il n'existe pas, il a dit, non, Joseph, il n'est pas loin. Il a dit, tu es dans ton ancien égarement, mais il ne parle pas d'égarement, il parle, tu es dans l'ancien amour. En arabe, le mot d'alel, il a plusieurs sens, d'accord. C'est ton ancien amour qui te fait rappeler Joseph. D'accord. Mais en vérité, il avait raison, Jacob. Parce qu'au final, il l'a retrouvé. Oui.
Qu'est-ce que je disais? J'en étais où?
Exemplaire parfait.
Oui, oui. Alors, on a dit les messagers sont des gens parfaits. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'ils sont... non. Un prophète, avant la révélation, n'a pas de législation. Mais il a la croyance. Il n'y a pas un prophète avant, il adorait les statues, ensuite, la vie dans la... Non, non, ça n'existe pas, ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais adoré les statues, ni ses parents, ni Abou Bakr Siddiq. Il y a plein de compagnons. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, la majorité des Arabes, qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient des statues. Mais on a une infime minorité qui sont restés dans la croyance abrahimique. Parce que Sidna Ibrahim, il était fait Mecca. Tiens la Mecque. Donc la foi de Sidna Ibrahim, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unicité d'Allah, mais au fur et à mesure que le temps passe, ils n'ont plus de législation. Ils ont gardé cette foi-là, qu'il y a un Dieu, un créateur, on n'adore pas les statues. Mais ça, c'est une minorité des Arabes. Y compris les parents du prophète, c'est ses grands-parents, etc. Et quelques sahabas. Quelques sahabas. Mais la majorité, tout le monde adore les statues. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs aussi. À Médine, il y avait des chrétiens. Il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de tribus juives à Médine. Il y avait aussi dans les alentours, en Abyssinie, etc. Donc on a des chrétiens, on a des juifs, on a des adorateurs de statues, on a aussi des adorateurs de feu, de djinns, on adorait tout. Hein. Mais il y avait une infime minorité qui avait la foi pure. C'est-à-dire qu'ils adoraient, ils connaissaient, c'est-à-dire ils avaient la foi pure, ils n'adoraient pas les statues. Il n'y avait pas un associationnisme. Allez. Bon. Donc tous les prophètes, c'est des gens pieux, c'est des gens dans la droiture. Alors quelles sont les qualités des prophètes? C'est-à-dire on a vu que pour Allah, on doit attribuer à Allah 13 attributs. On est bien d'accord? On doit lui attribuer 13 attributs. Alors pour les prophètes, on doit les qualifier par 4 qualificatifs. D'accord? Quatre qualificatifs qu'on doit attribuer au prophète. Le premier qualificatif, l'amana, comment on peut traduire
le dépôt.
Les vieux là, les anciens.
Véracité.
Non. C'est-à-dire qu'il commet pas de péché. Comment on a traduit ça?
Infaillibilité.
Bravo. Première qualité, infaillibilité. Donc, ils sont infaillibles, les prophètes. Infaillibles, c'est-à-dire qu'ils ne commettent pas de péché, ni grands, ni petits. Mais même un déconseillé, ils ne le font pas. Un déconseillé, ils ne le font pas. Est-ce que vous comprenez? Déconseillé, mais ils ne font pas. Il y a quelques ulama, ils ont dit même le moubah. Même l'autorisé, ils ne le font pas. Juste à titre, s'ils le font, c'est juste... Le professeur Rassam, des fois, il fait des choses, mais à titre indicatif pour nous apprendre la législation. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils sont infaillibles. Ils sont infaillibles. Vous nous dites qu'ils sont infaillibles. Mais le professeur Rassam, un jour, il a prié une prière de 4 rak'at, il l'a prié 2 rak'at. Il a fait le salam. Un sahabi qui était derrière lui, Dohr et l'Asr et l'Aïcha, c'est 4 rak'at. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On dit 4 unités. Yek. Un sahabi il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu as oublié ou la prière s'est rétrécie? Il pose la question. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, c'est Allah qui m'a fait oublier pour que je vous apprenne comment on répare la prière. Alors, suivez-moi comment on va refaire la prière. Donc, il a refait 2 rak'at qui manquaient, il a refait 2 prosternations. Inch'Allah, quand on parlera de prières, on parlera comment on répare les prières. Tu as oublié un rak'at, tu as oublié un sujoud, tu es rentré et tu as oublié de Samia Allah al-Min Hamid. On va parler de tout cela. Tout dépend ce que tu as oublié. Si c'est une obligation, si c'est un recommandé, c'est un méritoire. Et quand est-ce que tu l'as oublié? Est-ce qu'il se répare ou bien tu annules l'arkat, tu mets la deuxième à sa place? On parlera de tout ça, ne vous inquiétez pas. On va doucement, vous allez tout comprendre. C'est facile. Alors, si un prophète a oublié quelque chose, c'est qu'Allah l'a voulu pour qu'il soit une législation, pour qu'il soit une leçon. Sinon, eux,
ils ont des qualités, on va voir les qualités qu'ils ont des prophètes, ça n'a rien à voir avec le Allah leur a donné des qualités immenses, immenses. Donc l'infaillibilité, ils ne font pas de péché. Je viens voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était jeune. Il était jeune. Je sais pas, il avait entre 15 ans et 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il avait un troupeau de... Il était berger, comme plein de prophètes. Il a entendu qu'il y avait un mariage. Donc il a entendu que ça chantait, d'accord. Il y a des chants, il y a de la flûte, etc. Je ne dis pas que c'est interdit, hein. Mais le prophète, il a dit à un de ses amis, il a dit, tu me gardes le troupeau, je vais partir à... Et c'était le soir, je vais partir un petit peu écouter, c'est-à-dire tous les jeunes, ils étaient là, ils entendaient pour entendre cette musique, on va dire, d'un mariage. Arrivé là-bas, directement, il s'est endormi. Et c'est les rayons de soleil qui l'ont réveillé le matin. Donc lui, il le dit, et c'est Allah qui l'a fait dormir pour qu'il n'écoute pas cette chose interdite. Même, regardez, c'était 20 ans avant qu'il reçoive la révélation. Donc ils sont protégés par Allah. D'accord. Deuxième qualité, as-sidq. Sidq, qu'on traduit la véracité. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, tout ce qu'ils disent est vrai. Tout ce qu'ils disent est vrai. Il dit pas. Hein, une fois, le prophète, une vieille, elle est venue, il lui a dit, « Ah, t'es vieille. Les vieilles ne rentrent pas au paradis. » Il voulait rigoler avec elle. Elle a commencé à pleurer. Ensuite, il a dit, « Je dis vrai, parce qu'au paradis, vous serez jeune. » D'accord. C'est-à-dire, au paradis, tout le monde aura 33 ans. C'est l'âge que Sidna Issa, le prophète Jésus, a été élevé au ciel à l'âge de 33 ans. D'accord. Alors, tous les prophètes disent la vérité. Ne ment pas. C'est-à-dire, troisième qualité, c'est le troisième, hein?
Oui.
Alors, on a commencé par quoi?
La fiabilité, la véracité.
Troisième, c'est la clairvoyance. Vous savez c'est quoi le mot clairvoyance? Est-ce que vous connaissez? Un blédard qui va vous apprendre le français. Hein? C'est-à-dire, doué d'intelligence absolue. Clairvoyance, c'est-à-dire, personne ne peut venir faire un petit truc, se faire avoir, on va dire. Dans le langage d'aujourd'hui, tu te fais avoir par quelqu'un. Ça n'existe pas pour un prophète. Tu ne peux pas lui faire un truc qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que pourquoi? Allah leur a donné une qualité d'intelligence, une qualité d'éveil. Alors mélanger l'éveil, l'intelligence, et c'est pas rusé, hein, attention. C'est dans le bon sens, c'est-à-dire très intelligent. Il n'y a pas plus intelligent qu'un prophète, et en même temps éveillé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est chargé d'une mission. S'il s'est fait avoir à chaque tournant, salam alaikum. Donc, toi, tu veux, par exemple, transmettre une lettre, tu dis, écoute, je te donne quelque chose, tu vas le donner, quelque chose d'hyper important, hyper important. Je te charge à le donner à telle personne dans un endroit. Tu vas le donner à quelqu'un qui est éveillé, qui fait attention, qui sait ceci, cela, vous êtes d'accord avec moi? Alors, que dire de cette grande charge, à savoir la parole d'Allah, la législation, parler d'Allah, parler de ses attributs, parler de quelque chose qui n'est pas plus important que cela. Vous êtes d'accord? Donc s'il se fait avoir au chaque tournant, c'est mal parti. C'est pour cela le professeur, dès qu'il voit une personne venir, il comprend à l'avance. Il est très intelligent, il détaille. Il dit, oh, celui-là, il comprend vrai. Et plus on lit le prophète, plus on comment on dit? S'imprègne, il y a un mot en français. Hein? S'imprègne de ses qualités. Mais c'est-à-dire en suivant son chemin, en suivant sa sunna. Parce que Allah, c'est-à-dire, te donne la lumière dans ton cœur pour pouvoir voir. Le Coran nous dit,
La ta'amal absar, wa lakin ta'amal qulub allati fi soudour. L'aveuglement n'est pas l'aveuglement des yeux, c'est l'aveuglement du cœur. Parce que la puissance du regard, c'est avec le cœur, c'est pas avec les yeux. Les yeux, tu vois l'apparent. Mais le cœur, il voit des choses qui ne sont pas apparentes. Excusez-moi. Qulub al-arifina laha uyunu, tara ma la yarahu al-nadirina. Les cœurs des pieux, ils ont des yeux qui voient des choses que le commun des gens ne voit pas. D'accord ? Toi, tu vois avec tes yeux, c'est bien. Mais si tu as un cœur pur, tu verras beaucoup plus. Si tu as une vitrine sale, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais si elle est propre, dans le cœur, si elle est vide, il a de la lumière, il a le nour d'Allah, il voit beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Ça, j'ai compris. C'est pour ça que le prophète, plusieurs fois, il y a des gens qui le voient, dès qu'il le voit, il comprend. Il comprend ce qu'il lui prépare. Hein? Alors ça, on était dans la clairvoyance. Ça c'est le troisième, hein?
Oui.
Alors dernière, dernière c'est tablir, la transmission. Tablir. Alors les prophètes transmettent tout ce qui ont été chargés de le transmettre. Il n'y a pas un prophète qui dit oh là là j'ai oublié, ça je l'ai pas dit. Ah oui, mince, ça j'ai. Ou bien je l'ai pas transmis comme il se doit. Ou bien il a fallu que je dise ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les prophètes transmettent ce que Allah leur dit en détail et ils ont tout transmis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hein? Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dinan. Dans le serment, le dernier serment du prophète, il parle, il dit, « Oh Allah, sois témoin. » Vous êtes témoin que j'ai tout transmis. Ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, oui, on est témoin que tu as tout transmis. » D'accord ? Donc, il a tout transmis, le prophète. Et tous les prophètes, ils ont transmis ce que Allah les a chargés de faire. Donc, ces quatre qualités des prophètes, ce sont les qualités, retenez bien. Ces qualités des prophètes. Maintenant, ça, oui.
Comment on dit la clairvoyance en arabe ?
Al-Fatana. Fatin. Fatana. Alors, maintenant, ça, c'est des choses dont il est. C'est-à-dire, on est dans l'obligation de qualifier les prophètes, cela. Alors, quelles sont les choses dont on n'a pas le droit de qualifier les prophètes ? C'est le contraire des quatre. D'accord. Tu n'as pas le droit de dire un prophète, il oublie. Tu n'as pas le droit de dire un prophète, il est stupide. Tu n'as pas le droit de dire un prophète comme il est péché, etc. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on vient de voir. La même chose, j'ai oublié, quand on a parlé des attributs d'Allah, on a dit, on doit attribuer à Allah combien d'attributs ? Les 13. Donc le contraire des 13 est impossible pour Allah. D'accord ? Le contraire des 13, c'est-à-dire chaque chose, 1800 contraires, c'est impossible. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Par exemple, je donne un. On a dit la non-ressemblance. Tu n'as pas le droit de donner une ressemblance à Allah. Une ressemblance, c'est quoi ? Ah ben, le fait que tu dis Allah, il est dans le ciel, il descend en dernier. Ben, tu l'as ressemblé à. C'est l'être humain qui descend, c'est les anges qui descendent. Non, Allah ne descend pas. Ni il ne remonte, ni il descend, ni il est dans un endroit. Vous avez compris ? Avec vous, on n'a pas encore fait les versets ambigus. D'accord. Alors, on a vu les choses dont on doit les qualifier, et on a vu ce qu'on n'a pas le droit de les qualifier. Maintenant, qu'est-ce qui est autorisé pour les prophètes ? C'est-à-dire, il y a l'obligation, il y a l'interdit, il y a l'autorisé. Qu'est-ce qui est autorisé ? Donc les prophètes, c'est des êtres humains. À part ça, c'est des êtres humains comme tout le monde. وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق وياكل ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. Donc les kuffar de Quraysh, qu'est-ce qu'il a ce prophète? Il mange comme tout le monde, il marche dans les marchés. Ben oui, c'est un être humain comme tout le monde. Dans des choses. Il marche comme tout le monde, il mange comme tout le monde, il dort, il se marie, il a des enfants, il se fatigue, il peut tomber malade. Ah! Et on va détailler cette question-là. محمد بشر لا كالبشر محمد جوهرة بين الحجر. محمد بشر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un être humain. محمد بشر. Mais pas comme les êtres humains. Comme le diamant n'est pas comme toutes les pierres.
Parce que le diamant, il est comme toutes les pierres. Celui qui me dit oui, je vais lui donner un sac, je vais dire remplis-moi ce sac-là du monde. Les pierres, on peut les trouver partout, mais le diamant, non. Oui, c'est un être humain, mais pas comme tous les êtres humains. Une fois, les Sahaba, ils ont essayé de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait, et il jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, ce qu'on appelle siyam al-wisal, c'est-à-dire trois jours directs, hein, sans manger ni boire. Trois jours directs. Qui peut faire ça? Les Sahaba, ils ont dit, le prophète, il fait, nous, on vous a levé. Il a dit, non, vous ne pouvez pas le faire. Moi, je passe ma nuit chez mon Seigneur, il me fait nourrir, il m'abreuve. Il passe sa nuit où? Il est avec Seyyida Aïcha, il passe sa nuit en train de prier. Donc c'est l'alimentation spirituelle, elle remplace toute l'alimentation physique. D'accord? Il leur a dit, non, ça spécifique à moi. Donc on a vous avez quelques ulamas qui ont écrit sur la spécificité de l'aspect physique du prophète. Ou bien l'aspect spirituel. Ou l'aspect d'adoration. Dans l'adoration, il y a des choses qui sont obligatoires pour le prophète. Par exemple, les prières surrogatoires, elles sont obligatoires pour lui. Nous, elles sont surrogatoires. 4 rak'at avant dhuhr, 4 rak'at après dhuhr, 4 rak'at avant l'asr, 6 rak'at après le maghrib, le fait de prier la nuit. Tout ça, c'est obligatoire pour lui. Il doit faire ça. Mais spécifique à lui. Nous, c'est recommandé. Vous avez compris? C'est pas la même chose. Le prophète et sa famille, on ne leur donne pas, par exemple, l'aumône. Pour le tester, dans les anciens écrits apocryphes, c'est écrit que le prophète des derniers des temps, parce qu'on vient le tester plusieurs fois, il y a beaucoup de juifs qui sont venus tester le prophète ou des chrétiens. Ils ont dans leur texte que le prophète des derniers des temps, il n'accepte pas l'aumône, mais il accepte le cadeau. Il y avait quelqu'un, il est venu, lui a donné quelque chose, il lui a dit, tiens, c'est une sadaqa. Il a donné aux pauvres, il a dit, vous pouvez... Et une fois, il est revenu, il lui a donné un cadeau, il a dit, ça c'est un cadeau. Il l'a accepté. Donc, il a compris que c'est un prophète. J'ai compris. Donc, dans sa législation, il dort. Le prophète, il un âme ou elle a un âme ou calbé. Je dors, mais mon cœur ne dort pas. C'est-à-dire, il est toujours là. Quand Sina Abou Bakr Siddiq marchait avec lui, dans le voyage d'émigration de la Mecque vers Médine, quand ils étaient persécutés par les Quraychites, Sina Abou Bakr Siddiq, comme un fou amoureux du prophète, il aimait beaucoup le prophète, il avait peur qu'un malheur lui arrive. Quand il marche, il a peur qu'ils ont été suivis, on lui tire une flèche. Donc il se mettait des fois à la droite du prophète, des fois il se mettait à gauche, des fois il se mettait avant. Il s'est dit, Rasoullah, il dit, « Ya Babakr, pourquoi chaque fois tu changes d'endroit? Tu te mets à droite, tu te mets à gauche. » Il dit, « Rasoullah, à chaque fois que je sens, je me dis, « Ah, peut-être on va tirer une flèche sur toi à droite, je me mets à droite. » Pour que la flèche me touche et ne te touche pas. Et des fois, il dit, « Ne t'inquiète pas, Allah m'a protégé. »« Wallahu ya'asimu kabinan nas. » Et Allah te protège des gens. À Médine, une fois, ils ont préparé un attentat, allez, langage d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont dit, le prophète, il va rentrer chez lui, ils ont chargé quelqu'un de monter sur le toit et de préparer un grand rocher. Et dès qu'il le voit, il pousse le rocher. Et il a vu le prophète, il s'est paralysé, il n'a pas pu le... Dès qu'il l'a vu, il s'est paralysé, il n'a pas pu le... C'est-à-dire, jeter... D'accord. Donc, il y a la protection. Allahu yassimu kaminanest. Des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, un lui a dit, « Ya Rasulallah, moi, toute la nuit, je ne dors pas. Toute la nuit, je prie. » Un autre lui a dit, « Ya Rasulallah, moi, je jeûne toute l'année. » Et l'autre lui a dit, « Moi, je ne vais pas me marier. Je vais rester comme ça pour qu'on soit des gens pieux. On se donne à Dieu. » Le prophète lui a dit, « Moi, je prie la nuit et je dors. » Et au cours de l'année, il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Et je me marie. Et celui qui ne suit pas ma sunna ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas comme moi. C'est-à-dire, il a voulu attirer notre attention que le chemin d'un prophète, c'est la modération. Ce n'est pas être dans quelque chose. C'est pas, tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans l'excès. Ce que vous avez compris. C'est l'équilibre. La Ummah de l'islam, c'est l'Ummah d'équilibre. L'Ummah du juste milieu. On a des gens aujourd'hui qui aiment la dureté. Ils aiment être vraiment dans l'excès, dans l'extrémité. Non, c'est une ummah du juste milieu. D'accord? L'excès, le proverbe arabe dit, chaque chose qui dépasse sa limite, elle se transforme en contraire de ce qu'on a voulu faire d'elle. D'accord ? On s'en contre la chose elle-même. Sallallahu alayhi. Alors, pour la maladie, bien sûr, les prophètes peuvent tomber malades. Bien sûr. Mais ce n'est pas des maladies, les ulama, ils ont dit, ce n'est pas des maladies qui les empêchent à faire le rôle de prophète. Attention, on a le prophète Ayoub. Ayoub, on dit sur lui qu'il était tellement malade, qu'il puait, qu'il avait des vers qui tombaient de sa chair. Ça, c'est faux. Ça n'existe. Même si vous trouvez ça dans le livre de Tafsir ou Histoire, ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Comment ça, Allah, il le charge d'une chose, il pue, les gens, il le fuit. Non, non, non. Il peut tomber malade, mais ce n'est pas une maladie qui l'empêche de faire son rôle en tant que prophète. Et jamais, jamais, comment ça, des vers, ils tombent sur lui. Les gens, il y a des choses. C'est pour ça, les savants du hadith faisaient attention à ce qu'on appelle le qassassin. Qassassin, c'est les raconteurs. Vous savez, avant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de télévision, donc vous avez des gens qui sont dans le marché, ils vont se mettre sur un rocher, ils vont leur raconter une histoire. Mais pour qu'elle soit belle, il faut qu'il rajoute des trucs. Ensuite, il a sorti son épée. Dès qu'il a sorti, il a coupé 10 têtes. Ensuite, il y avait un... Ils vont faire des histoires qui ne tiennent pas la route. Mais juste pour que ça fait l'effet d'un cinéma. D'accord. Qassassin. Les savants du hadith, ils sont anti-qassassin. Dès qu'ils voient un qassass, ils disent, oh là, il va nous fabriquer quelque chose, celui-là. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il a été ensorcelé. Oui, il a été. On a pris un peu des cheveux on a pris des cheveux, on a essayé de l'ensorceler, mais Sayyida Aïcha, ils ont vu un comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas bien, mais c'était pour nous, pour que ensuite, c'est-à-dire pour qu'on apprend, on nous apprend quand vous sentez quelque chose qui ne va pas, point de vue, c'est-à-dire. Peut-être ensorcelé, peut-être il y a l'ain ou haq. Hein? Même en Occident, on parle de l'œil, mauvais œil. Mauvais œil, on dit à la taïfa, mauvais œil. ça existe hein, chez les juifs, chez les chrétiens, même chez les gens athées, ça existe. Vous avez des gens pour ne pas les frapper d'un mauvais œil. Des gens, quand ils. Ça existe, hein, c'est. Au bled, une femme a un bébé, pour qu'il ne soit pas frappé d'un mauvais œil, elle lui donne un mauvais nom. Le sale. C'est un bébé, le Khamed, il s'appelle Khamed. Comme ça, un prénom, le sale. Comme ça, ah, tu as un bébé. Comment il s'appelle? Il s'appelle le sale. Comme ça, oh, de toute façon, on ne va pas. Peut-être qu'il est très beau parce qu'ils ont peur que. Donc, le mauvais œil existe. Mais ce n'est pas. Une fois, il y avait les Qurayshites, ils ont payé deux spécialistes, ils ont des mauvais œils. Ils ont payé deux, ils ont dit. Et, subhanallah, ils ont des trucs bizarres. Hein. C'est des spécialistes, quand ils ont la concurrence entre eux dans le commerce, un, il a une caravane, etc., et qui est chargé de vendre. Alors, il les ramène pour regarder, il les paye, il dit regardez, la caravane va passer, vous pouvez les regarder là. Les chameaux, et des chameaux qui tombent, c'est-à-dire, ils ne peuvent plus bouger. Ils les ont ramenés pour. Avec leurs yeux, avec le rayon des yeux pour attaquer le prophète. D'accord. Ils ont payé, ils ont dit, voilà, il est là. Il est là, pouvez les... Regardez-le et lancez-lui les rayons. Donc, tous les deux, ils étaient malades de leurs yeux. Ils ont essayé de regarder le prophète, les rayons sont revenus sur eux. Ils sont devenus des gens très, très, très malades. On rapporte même qu'ils ont perdu la vue. Donc, le mauvais œil existe, la sorcellerie. Si on aura le temps, Inch'Allah, au cours de l'année, on parlera sur cette question et comment on peut se protéger, etc. D'ailleurs, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous apprendre. Il a récité les trois. On récite les trois dernières sourates du Coran. Donc, qul huwallahu ahad, qul a'oudhu bi rabbil falaq, qul a'oudhu bi rabbil nas. Soit tu les lis, c'est le Coran, tu les lis dans tes mains et tu les suis quand tu ne te sens pas bien, ou bien tu les lis dans l'eau et tu bois de l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller voir des monsieur. Tel ou monsieur, madame tel, le hadja, machin, je vais aller des retours, les publicités qu'ils font dans les radios, tout ça, il ne faut pas voir ça, hein. Ça, c'est du charlatanisme. C'est des gens qui se font du business sur le dos des pauvres malheureux, peut-être. Des fois, vous avez des gens qui ont des problèmes psychologiques, hein. C'est des fois, ça n'a rien à voir avec l'haine et rien. Il faut qu'il aille voir un psychiatre ou un psychologue. Et ça, pas forcément l'haine, mais bon, ça peut être l'haine ou il y a le hasad, c'est-à-dire l'envie. ou bien ça, c'est des choses qui arrivent. Donc on lit le Coran al-Karim, soit tu lis dans tes mains et tu t'essuies, ou bien tu lis dans une bouteille d'eau et tu bois. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez compris? Donc on a dit Sayyiduna Ayyub, c'est pas vrai qu'il puait ou là non, les prophètes peuvent tomber malades, le prophète est tombé malade, mais c'est pas une maladie qui va le freiner, qui va le mettre à KO, il peut plus bouger, etc., etc. En même temps, oh là là, qu'est-ce qu'on peut donner aussi sur le prophète? Ah, le meilleur des créateurs, c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalul khalqi ala al-itlaqi, nabiyyuna famin ali shiqaqi. Donc, la meilleure des créatures. Alors, les salafis disent, ce n'est pas la meilleure des créatures, c'est la meilleure des humains. Mais, ils disent, quand on leur dit, alors, c'est qui la meilleure des créatures? Ils disent, on ne sait pas. Ben, tu ne sais pas, tu ne parles pas. Man alima hujjatun ala man ya'lam. Celui qui connaît est une preuve au-dessus de celui qui ne connaît pas. D'accord? On a plein de versets. Femina al shiqaq. La meilleure des créatures, c'est Allah sallallahu. Alors, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé des prophètes et les messagers, il leur a donné des miracles. Ces miracles-là, c'est une preuve que ce prophète est un prophète. C'est une preuve que ce messager est un messager. Tous les prophètes, ils avaient des miracles. On va citer quelques-unes. Alors, tout ce qu'un prophète peut avoir après qu'il a reçu la révélation, on appelle ça miracle. Mu'jiza, en arabe. Mu'jiza. Mais les choses qu'un prophète peut avoir avant la révélation, parce qu'ils ont aussi une sorte de miracle avant la révélation. On ne les appelle pas miracles, on les appelle, je ne sais pas en français comment on dit, mais en arabe on dit irhas. Irhas. D'accord? Irhas, notez-le, qui veut dire que c'est des choses, comment on dit, pas naturelles. Surnaturelles. C'est des choses surnaturelles qui peuvent, hors du commun, surnaturelles, comme vous voulez, qui peuvent arriver à un prophète, mais avant la révélation. D'accord? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ça. Il a... quand il était tout enfant, il jouait, quand vous savez très très bien, c'est Halima Saadiya, qui était une femme qui a accepté d'allaiter le prophète, tout en étant très 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 jeune, hein, 2 ans ou 3 ans. Les enfants qui jouaient avec lui, ils ont vu, sont allés voir Halima Saadiya, qui était chargée de l'allaiter, il était dans la campagne. Lui on dit, on voit deux personnages blancs, ils sont en train de lui ouvrir la poitrine et de lui laver la poitrine. Donc, c'est des enfants qui sont allés lui dire. Donc, elle avait peur. Parce que c'est la maman du professeur Hassan et son oncle. Ils ont dit, bon, ils ont cette tradition, les Arabes, quand le bébé est né, pour qu'il soit vraiment, il a une bonne force, etc., pour qu'il soit allaité, pas dans la ville, on va l'envoyer à la campagne, là où il y a le bio et la nature, etc. Donc, il va manger que des choses naturelles, etc., pour qu'il soit fort quand il va grandir. Donc, il est allaité par cette femme, qui s'appelle Halima Saadiya, et elle avait peur quand ils lui ont raconté qu'il y a des hommes blancs, et c'était des anges. Hadith, on appelle ça Hadith al-Shaq al-Sadr. Donc, ils lui ont ouvert la poitrine pour lui laver son intérieur. Ils lui ont, ce qu'on dit, ils lui ont enlevé la part du shaitan, c'est-à-dire le shaitan, il ne peut pas avoir accès au cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris. Et on rapporte les ulama que cette question-là s'est répétée 2 ou 3 fois. D'accord. Donc, la Halima, elle a rapidement prié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a amené à sa maman, elle a dit, j'ai peur qu'un malheur lui arrive, voilà ce qu'on m'a rapporté les enfants, et on dit que la trace, il y avait la trace de l'ouverture de Hadith Shaqsat, quand ils lui ont ouvert la poitrine. Alors, les miracles, bien sûr, donc ça, c'est pas un miracle, ça s'appelle irhas, des choses qui ne sont pas naturelles. Aussi, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il y avait un nuage qui était sur sa tête, il faisait très 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 chaud dans le désert, c'est irhas, c'est après la révélation, il appelle ça miracle. On va citer quelques miracles des prophètes, de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Il a été jeté dans le feu. C'est vrai ou non? Parce que Sayyidina Ibrahim, il avait une discussion avec le roi, quand il était jeune, il leur dit, c'est quoi ça? C'est quoi ces statues-là? Vous adorez des choses que vous construisez avec vos mains? Oui.
Est-ce qu'on peut considérer un châtiment qui arrive au peuple d'un prophète comme un miracle?
Non. Non. Parce que c'est quelque chose de... Un châtiment, c'est quelque chose de... Un miracle, il faut que ce soit un tahaddi. Un défi. Un défi qu'un prophète peut faire vis-à-vis de sa communauté. Il leur fait un défi. D'accord? Donc, Sayyidina Ibrahim... ils l'ont jeté au milieu du feu et tout le, mais le feu c'est pas un feu normal hein. Pendant un mois ils ont rassemblé tout le bois qui existe dans cette ville. Un mois ils ont rassemblé tout le bois, en plus ils l'ont jeté au milieu pour qu'il brûle bien. Une fois que tout le bois a brûlé, ils l'ont trouvé intact, rien. Aussi quand Allah a voulu le tester, l'éprouver. Vous imaginez, il a un enfant qui s'appelle Ismaïl, bien sûr avec une petite divergence avec les juifs qui disent pas que c'était Ismaïl, disent que c'était Isaac, que l'épreuve, Allah, le rêve, quand un prophète ou un messager rêve, ça veut dire une révélation, c'est pas comme nous. Nous, quand on rêve, c'est un rêve. Mais le rêve chez un prophète, c'est une forme, la révélation, elle a plusieurs formes. Ça peut être un rêve, ça peut être l'ange qui ramène, l'ange Gabriel qui est chargé de dire cette révélation. Ça peut être directement quelque chose qu'il peut trouver dans son cœur, le prophète, etc. Il y a plusieurs façons de révélation. Donc il a vu dans le rêve, c'est Ibrahim qui doit égorger son fils, Ismaïl. Vous imaginez, il a tant attendu pour avoir un enfant, et quand il l'a, Allah lui dit, tu vas l'égorger. Y a-t-il une épreuve plus que celle-là? Bon, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, Sidna Ibrahim, il prend son fils loin. Il lui dit, oh mon fils, Allah m'a révélé de t'égorger. Regardez le petit enfant. L'enfant messager qui parle, éduqué par un messager. Il lui dit, oh mon père, fais ce que Allah te demande. Tu me trouveras patient. Subhanallah. Il le prend dans une montagne, loin. Il ramène un couteau. Et quand il voulait l'égorger, il lui dit, attention, il lui dit, mon père, éloigne-toi un petit peu pour que le sang ne te tache pas, comme ça ma mère ne voit pas le sang sur toi, elle va te douter de quelque chose. Subhanallah. Regardez, c'est incroyable. C'est-à-dire la patience de Sayyidina Ismaïl et cette grande épreuve de Sayyidina Ibrahim. Les gens, ils croient que Sayyidina Ibrahim, il a pris le couteau et l'ange lui a tenu la main. Non. Il a passé le couteau 2-3 fois. Il a passé le couteau. Il voulait exécuter, faire ce que Allah lui a demandé de faire. C'était pas facile, hein. C'est pas, il le fait parce qu'il est... Non. C'est dur. Et là, la question de... Le couteau n'a pas coupé. Bien, c'est un vrai couteau. Hein. Il ne va pas ramener un couteau qui ne coupe pas. Au contraire, il va ramener un couteau qui coupe vite. C'est-à-dire pour que ça se termine vite. Et quand on égorge un bouton ou une bête, et on a dans le fer, dans la jurisprudence, quand on va étudier, il faut que... C'est-à-dire le moyen utilisé, il faut qu'il soit quelque chose de... C'est-à-dire très, qui coupe rapidement. C'est-à-dire, c'est pas tu vas se faire souffrir l'animal, non. Il y en a ceux qui... Il va souffrir parce qu'il y a l'animal et... Non. En un coup, ça y est, tu as tout coupé. Donc, lui, il a ramené quelque chose qui coupe. Et là, on rentre dans la question, quand on va voir, on va parler un petit peu dans les questions, qui est-ce qui fait les choses? Est-ce que c'est Allah qui coupe ou c'est le couteau? C'est Allah qui coupe, c'est Allah qui fait tout. Donc, Allah a voulu que le couteau ne fonctionne pas. Le couteau ne fonctionne pas de lui-même. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'ange Gabriel lui ramène un mouton et lui dit, ton épreuve, tu l'as réussi. Et il lui ramène un couteau, il lui dit, Allah te dit de dégorger le mouton et ça sera depuis ce jour-là, c'est pour ça que nous, quand on égorge un mouton le jour de l'Aïd, vous vous rappelez de ce grand événement, hein, de Sidna Ibrahim, etc. On nous dit la fête du mouton, mais on ne sait pas d'où vient ce mouton-là. Salah al-Rajila. Donc Sidna Ibrahim, ça c'est les quelques... Là, il a eu beaucoup de miracles. Hein. Miracle Sidna Moussa, vous les connaissez. Ce qui s'est passé, je vous ai raconté ça, avec le miracle Sidna Moussa. J'ai raconté quand il a rassemblé Pharaon et les sorciers, tout ça. Je vous ai raconté ça. Le miracle de Jésus, bien sûr, il avait beaucoup de miracles. Hein. Il rendait et donnait la vue à des gens aveugles, qui étaient nés aveugles. Donc, il donnait la guérison à aux gens malades, à des maladies graves, hein, les lépreux, d'accord. Il suffit qu'il essuie avec sa main. On dit que c'est pour ça qu'il s'appelle le Messie. Le Messie. On dit en français le Messie. Hein? Le Messie. Le Messie, oui, le Messie. On dit le Messie, Messaha, c'est celui qui essuie. Une des interprétations pourquoi il s'appelle le Messie. Mais une autre interprétation qui dit celui qui voyage beaucoup. D'accord. Alors, il informait les gens aussi qu'est-ce qu'ils ont chez eux de ravitaillement. Les gens, ils se mettaient par mille. Hein, et chacun, il lui dit, tu as deux pommes, tu as un œuf, tu as un litre de l'huile, tu as... Ils les informent tout ce qu'ils ont chez eux. C'est un défi, quand même. Mais surtout, le plus grand défi, c'était des choses médicales, parce que la médecine, elle a très, très évolué dans 100 ans. C'est Nasuleyman. Il parlait aux animaux. Il avait la puissance, Allah lui a donné la puissance de même le vent. Il domine le vent quand il veut envoyer quelqu'un dans une région. Il ordonne le vent. Il lui dit, allez, tu me prends celui-là, tu l'emmènes en Inde. Lui, il est ici en Jérusalem. Il lui dit, allez, je veux que le vent, allez hop, celui-là, tu l'emmènes en Inde. Et tu le fais revenir demain. Allez hop, il veut faire le vent. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, il avait combien de miracles? Il avait 1000 miracles. Ou bien plus que 1000 miracles. Parmi les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a pris des pierres dans sa main, elles ont commencé, les sahaba, ils ont entendu les pierres, elles font les invocations. Les pierres dans sa main. Sabbahat al-hasaf, il font des tisbihs, subhanallah, alhamdulillah. Les pierres. Un jour, quand il était encerclé à Médine, il n'y a plus d'eau. La guerre des croisés, non pas des croisés, des tranchées, elle a un autre nom aussi. Il y a toute la guerre des fossés. Les fossés aussi, tous les autres partis sont contre. Il y a une sourate, il y a une sorte d'Ahzab.
Les coalisés.
Coalisés, voilà, coalisés. Donc ils étaient encerclés, l'eau, il manquait vraiment, vraiment, vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un seau d'eau, il a fait rentrer sa main bénie. Il l'a sorti, chaque doigt est devenu un roseau d'eau. Donc tout le monde remplissait, ils ont ramené tous les récipients de Médine. Tout le monde remplissait. Ils ont tout rempli, les animaux, ils ont bu, tout le monde. D'accord. Une fois, il y avait des gens qui n'étaient pas croyants. Ils ont dit, si tu veux en croire à toi, est-ce que tu peux demander à l'arbre qui est en face, tu dis à l'arbre de venir vers toi. Un arbre. Regardez, ils sont devenus fous. Le professeur Asselmi a dit... Je vais voir si vous allez croire. Il a demandé à l'arbre de venir. L'arbre, il est venu avec ses racines. Ils ont vu ça. Il y en a ceux qui ont cru, il y en a ceux qui n'ont pas cru. Ils lui ont dit, on veut que tu... la lune, tu la divises en deux. Donc là, ils ont terminé les choses de la terre, ils sont passés à... Et il a pris une épée, il a dit, bismillah, il a divisé la lune, elle est divisée en deux morceaux complètement distincts. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, tu as ensorcelé nos yeux. Il leur a dit, ben d'accord, on va attendre les caravanes qui sont dans le désert, qui se dirigent avec la lumière de la lune. Ils ont sûrement vu ça, on va voir. Moi, je ne suis pas avec eux pour les ensorceler. Et ils ont attendu quelques jours, les caravanes sont venues, tout le monde a raconté un tel jour, ils ont vu la lune divisée en deux. Et malgré ça, il y en a ceux qui croient, il y en a ceux qui ne croient pas. Le prophète faisait un prêche sur un tranche d'arbre. Avant qu'on lui fabrique une chair, un minbar. Et le jour où il est allé faire le prêt sur le minbar, il a laissé cette arbre-là. Tous les sahaba qui étaient là, présents, ils ont entendu ce tronc d'arbre en train de pleurer. Ils l'ont entendu. Ça s'est rapporté par des chaînes de transmission. C'est-à-dire, c'est authentique. Hein. Tout ce que je vous raconte, c'est pas c'est écrit dans un livre. Non. Ce que je vous raconte, c'est chaînes de transmission. C'est-à-dire... Des centaines de personnes qui rapportent sur des centaines de personnes, mais qui sont fiables. Pas de. Dans le sens du hadith, on vérifie. Il y a toujours en islam, on a la question de la vérification de l'information. C'est pour ça qu'on a la science du hadith. C'est une science qui étudie la vérification de l'information. Les chaînes de transmission, les rapporteurs, etc. etc. Parce que ça, c'est des choses qui concernent la foi, l'application, la religion, le droit. Donc on vérifie l'information, comment elle est faite. Et c'est toute une science, vraiment, de vérification, hein, là, vraiment, dans le détail. Allez. Et le miracle des miracles, c'est bien sûr, c'est le Coran. Le prophète, il a plein de miracles. Mais le plus grand miracle, c'est le Coran. Pourquoi le Coran ? Premièrement, les Arabes de l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas avancés dans la technologie, ni c'était des gens de la poésie, c'était des gens du verbe. D'accord ? C'était vraiment, vraiment, ils disaient des poèmes très, 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 très forts. Très, très, très forts. Et des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait quelques poèmes qui étaient bien. Il dit ça, c'est des paroles sages, des fois. Hein? Zuhair ibn Abi Salma, il disait ça, c'est... Des fois, quand il voit des paroles sages, bien, il dit, ça c'est beau. D'accord ? Alors, le Coran, quand ils l'ont entendu, ils étaient choqués. Anéantis. Parce que c'était des gens très forts en langue arabe. Ils comprennent bien, ils savourent l'arabe. C'est des arabes, c'est des Quraychites. Et quand ils ont entendu le Coran, sa force linguistique, sa cohérence, et pire encore, c'est pas de la littérature, c'est la langue arabe pure, condensée, concentrée, forte, harmonisée, avec rime. Pire encore, ça nous ramène. Et à l'intérieur, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la science, c'est de la médecine, c'est de ce qui va se passer, c'est de la politique, c'est de la législation, etc. C'est pas évident que un livre va regrouper tout ça. C'est pas évident. Un livre, tous les livres de littérature que vous pouvez prendre, prenez Victor Hugo, je sais pas, Balzac, ou je sais pas quoi, des littératures, hein. Vous lisez un peu la littérature ou... Dites-moi quelques livres de littérature française. Voltaire, Victor Hugo, c'est vrai ou non ?
Alexandre Dumas,
par exemple. Les contemporains, oui. Alors, tous ces livres-là de littérature, même ceux qui ont les prix Goncourt, etc., vous allez les trouver... Jamais vous allez trouver un livre du début jusqu'à la fin avec la même puissance. Vous allez trouver des passages où, quand même, ça baisse et des passages où c'est fort. Et c'est le Coran Karim, du début jusqu'à la fin, même rythme, même force. Je parle des Arabes, hein, qui comprennent très très bien l'arabe. C'est-à-dire, même les Quraysh, c'est pour ça qu'ils étaient choqués. C'est-à-dire, ça frappe. En langue arabe, c'est trop fort. Franchement, trop trop fort. C'est-à-dire, les mots. Et pire encore, il nous ramène même des mots qui ne sont pas arabes, il les arabise. Il les fait rentrer dans le texte, ils sont arabisés, ils rentrent en harmonie. Vous avez des mots perses, vous avez des mots, il y a quatre mots berbères dedans, des mots berbères, d'accord ? Vous avez des mots qui sont pas arabes, des noms. Par exemple, Marie, c'est pas un nom arabe. La plupart des noms des prophètes, c'est pas des noms arabes. Pharaon, pas un nom arabe. Pharaon, c'est pas... On va les trouver dedans Il y a ces mots perses, etc. Ils sont à l'intérieur, ils rentrent en harmonie. C'est incroyable. Il n'y a pas de faute. Dans chaque livre, tu peux trouver des fautes. Des fautes d'histoire, des fautes... c'est humain. Hein? Des fautes d'histoire, des fautes de grammaire. Il n'y a pas dans le Coran Al-Karim. Il n'y a pas. Au contraire, il nous défie dans ces petits détails. D'accord? Numériques, etc. Donc, quand ils ont entendu ça, ils ont reconnu. Ils ont fait appel à deux grands spécialistes de la langue arabe. De la poésie arabe, le plus grand spécialiste de la région, qui connaissent les poèmes, etc. Donc on dit, on va vous lire quelques passages de ce que nous rapporte ce monsieur-là, parce que ce n'est pas des poèmes, c'est des textes.
C'est quoi? Ce que vous pouvez nous dire? Et c'est des gens qui connaissent très 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 bien la poésie arabe. Quand ils ont entendu, tous les deux, leur conclusion, ils ont dit c'est impossible que ces paroles, ça vienne d'un être humain. Impossible. C'est pas possible. C'est pas des paroles d'être humain, ça. Donc ils ont, ces deux grands spécialistes ont reconnu que c'est de la révélation. Pourquoi c'est de la révélation? On a mille et un arguments que le Coran c'est de la révélation, qui vient d'Allah. Pourquoi? De un, sa force linguistique puissante, où il a défié jusqu'aujourd'hui linguistiquement tous les grands spécialistes de la langue arabe, de l'époque de Quraysh jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucune faille. Il n'y a pas un grammairien qui a dit « Ah tiens, j'ai trouvé une faute. » Voilà. Rien du tout. Rien du tout. Point de vue force, quand je dis force en langue arabe, faites sortir toutes les sciences de la langue arabe. Je ne les connais pas, moi, en français, comment on les appelle, mais je vous le dis en arabe. « Isti'ara, al-kinaya, al-safr, al-bayan, al-ma'ani. » Donc, vous avez 20 sciences de langue arabe. Toutes ces sciences-là, elles sont dedans. Elles sont avec force, elles sont cohérentes. Même quand vous entendez un récitateur, vous allez comprendre ça. D'accord? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Regarde, أَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Regarde, c'est rythmé. C'est rythmé. Et la même chose de Fatiha jusqu'à dernière sourate. Partout, c'est comme ça. Alors, non seulement il y a ces rythmés, non seulement vous avez trouvé les forces qu'on trouve de la métaphore, de la syntaxe, de la grammaire, de l'balara, de l'majaz, de l'ma'ani, tout est à l'intérieur. Pire encore, donc ça c'est point de vue linguistique, maintenant on revient au deuxième aspect historique. Donc il va nous raconter de l'histoire. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il nous rapporte comme histoire. Il nous rapporte plein d'histoires de prophètes avec des détails qui n'existent nulle part. Ce n'est pas qu'on peut les trouver ailleurs. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Ces histoires-là, elles sont, elles existent dans d'autres livres anciens, apocryphes, juifs ou chrétiens. Mais pas avec ces détails. L'histoire de Marie, comme elle est citée, avec les détails. C'est-à-dire, la question de Jésus, bien sûr, on peut trouver dans les textes apocryphes, on peut les évangiles, etc. C'est tout à fait normal. Mais il y a des détails qui n'existent, qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Ils ne sont pas dans les histoires des prophètes israélites. Il y a plein d'histoires qui sont rentrées dans des détails. Il te donne le nombre de jours. Il te parle de Younes, c'est-à-dire Jonas, qu'on a parlé tout à l'heure. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment, c'est-à-dire, le différend qu'il avait avec sa tribu, et comment il est parti, et comment il a été, c'est-à-dire, c'est lui qui a sauté, hein, c'est pas qu'ils l'ont jeté. Il a sauté par. Comment il est resté dans le ventre de la baleine 3 nuits, comment il est ressorti, c'est pas une ou deux, trois, quatre histoires. Vous avez des centaines d'histoires. Il y a même des histoires de peuples qui ont disparu. On n'a plus leur nom, ni. Ils ont disparu. Il te ressort le nom de ces tribus-là disparues. Et c'est de la. Voilà. Histoire de. Ceux qui fouillent, ils font les fouilles, tout ça, ils trouvent là.
Les archéologues,
tout ça. C'est-à-dire, ils te sortent l'histoire des peuples qui ont disparu et comment ils ont été châtiés, de quelle façon, combien de jours, le vent, il les a touchés, 7 jours et 7 nuits. Ils te donnent le détail. Ils te parlent des gens de la caverne, ils te disent, voilà, il y a une divergence de nombre de jours. Il y a de ceux qui disent qu'ils sont restés endormis 307 jours, il y en a ceux qui disent 308, il y en a ceux qui disent 309, ils te donnent la vraie version. Il te donne même le détail du chien qui était avec eux, comment il était positionné. Il te donne les détails du main du chien, comment ils étaient, la façon. C'est des détails incroyables. C'est-à-dire, le Coran te donne des détails historiques. Le prophète, c'est quelqu'un qui vivait dans le désert. C'est pas quelqu'un qui était... D'ailleurs, ça ne savait ni lire ni écrire. C'est-à-dire... on ne peut pas dire il avait accès. Il avait accès à quoi? Tu peux avoir accès à 1, 2, 3, 10. Pas à tout ça. Tout ça. c'est pas des choses connues chez Quraysh. C'était des bédouins, ils savaient, c'est des gens, ils lisaient pas. Ils avaient des poèmes, khalas. Donc il y a beaucoup de détails historiques. Dans la question du pharaon avec Moïse, c'est pas répété une seule fois. L'histoire de Moïse, elle est répétée plusieurs fois. L'histoire de Jésus, répétée plusieurs fois. L'histoire de Noé, plusieurs fois. L'histoire de Jacob. Regardez l'histoire de Joseph avec Jacob. L'histoire de Joseph, c'est extraordinaire. Le Coran Karim nous la rapporte avec des détails incroyables. Comment il est né, Youssef, comment ses frères, ils étaient jaloux de lui. Ils étaient combien? Le nombre de frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de lui quand il est sorti? Comment ils l'ont jeté dans le puits? Comment il a été sorti? Qui l'a fait sortir? Comment il est devenu un ministre de l'économie et de finances? Comment ses frères y sont venus parce qu'il y avait la sécheresse, etc.? Comment il a interprété les vers? Quels sont les rêves que ceux qui étaient avec lui dans la prison, ils lui ont dit des rêves, il les a interprétés? C'est quoi ces rêves-là? Tous ces détails, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un prophète, qu'un monsieur dans le désert, il est là, il connaît tout ça. Tout, il n'a pas fait une seule erreur, quand même. Ce n'était pas la révélation. C'est la révélation. C'est une preuve que c'est Allah qui l'informe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plein de détails. Prenez chaque prophète à part, il a le détail de sa vie, de ce qui s'est passé. Pire encore, il va nous raconter l'histoire des autres prophètes, il ne raconte pas son histoire à lui. D'accord? C'est l'histoire, le nom du prophète, il citait 5 fois dans le Coran. Si c'est lui qui a écrit ce livre-là, il va le citer des centaines de fois. Il ne va pas citer les autres prophètes. Ah non, tu vas trouver le nombre de fois de Moïse, le nombre de fois de Noé, le nombre de fois d'Abraham, le nombre de fois de Ismaël, le nombre de fois de Jacob. C'est-à-dire des centaines de fois de tous les prophètes. Lui, il les citait 5 fois. Il n'y a pas le nom de ses femmes. Il avait plusieurs femmes. Non. Le nom de Marie, il est cité. Elle porte même le nom d'une sourate, sourate Maryam. Avec les détails de Marie, sa relation, comment elle est née, son rapport avec Zacharia, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le côté histoire. Il y a aussi, noté, le côté législation. C'est-à-dire le Coran, non seulement il nous rapporte de l'histoire, mais il nous rapporte aussi du droit. La question du droit, avec tous les détails que le droit, c'est un seul livre, là, on ne parle pas de 10 tomes. Hein. Tout ce que je vous raconte, en un seul livre, va écrire un livre comme ça. Où tu vas nous faire de la littérature forte, en même temps, faut que ça soit rimé, pas d'erreur, l'histoire, du droit, dans le droit, vous avez tous les domaines. Vous avez, le droit, c'est 2 choses. Il y a le droit dans ton adoration, toi, avec Allah, la prière, le jeûne, le hajj, ça c'est, on appelle ça fiqh al-ibadat, c'est-à-dire ta pratique, toi, dans le droit. Ça, d'accord? C'est-à-dire c'est ta pratique, ta relation avec Allah. Vous avez compris? C'est détaillé. Tout est détaillé. Et aussi, le droit, ton rapport de l'homme avec l'homme. Le commerce, c'est-à-dire le mariage, divorce, héritage. Regardez la question du héritage, par exemple. Le prophète, c'est pas un homme qui était un mathématicien. Mais vous allez voir les détails des parts, comment ils sont répartis. Quand telle personne, nous, quand on étudie les questions d'héritage, on est des fois, on est des calculatrices et des fois, on est perdu. Subhanallah. Tu as le Coran Karim parle des détails de chacun, combien tu lui donnes. Chacun, si elle a un tiers, si elle a 2 tiers, si elle a 3 tiers, si elle a 1/6, l'autre, si son mari, il existe, ton, le fils, il n'existe pas, l'autre, il bloque l'autre, il peut prendre parce que l'autre, il n'existe pas. C'est incroyable. Avec des pourcentages, si c'était le Coran Karim. La question du commerce, elle est détaillée. Qui a droit, qui n'a pas droit, comment on fait le commerce, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. La question des rapports dans les questions de justice avec les uns. C'est-à-dire quelqu'un, il est injuste, il a frappé l'autre, comment on fait, etc. Donc, tout le droit du rapport de l'homme avec l'homme, il est détaillé. C'est dans les fins détails. Fins détails. Est-ce que vous comprenez? Vous avez du droit, et vous avez aussi ce qui va se passer. Al-Karim a parlé de choses qui vont se passer. Et même le prophète, quand il y avait une guerre entre les Perses et les Romains, c'est-à-dire il y a une bataille qui a été perdue par les Romains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le Coran Karim, il vient, il révèle, il dit, il va y avoir une autre bataille, c'est les autres qui vont gagner. Ça, c'est dur quand même de le faire. C'est-à-dire, tu dis que ils ont perdu, mais une année après, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Il donne les informations de ce qui va se passer. Donc, il y a la législation, il y a aussi prévenir ce qui va se passer. Ça, il parle aussi de la gestion de la cité. comprenez. Il parle aussi du monde de l'au-delà. Ajoutez ça. Il nous détaille le monde de l'au-delà. Il nous donne tous les détails du monde de l'au-delà. Le monde de l'au-delà, c'est tout ce qui concerne Allah, tout ce qui concerne ses attributs, ses noms. La mort, c'est quoi la mort? Les détails du monde du Barzakh, les détails de la résurrection. D'accord? Il y a l'argumentation par la raison. On trouve l'argumentation par la raison. Sur ce qu'il prétend dans la croyance, il y a l'argumentation par la raison. D'accord? C'est un code de la route sur la vie d'ici-bas. Il te donne des orientations sur les problèmes de société, etc. Alors, il y a une chose hyper importante. Hyper importante qu'on peut rajouter. C'est les miracles scientifiques du Coran. Ça, c'est vraiment la ilaha illallah. Pourquoi? Alors, le prophète n'est pas avec nous. Ça fait 15 siècles qu'il n'est plus de son monde. Hein? Il a rejoint son Seigneur. Comment un texte qui existe depuis 15 siècles, on trouve dans ce texte-là des vérités scientifiques que les grands scientifiques ont découvert aujourd'hui? Si ce n'était pas la révélation. Je vous invite à lire le livre « 1000 vérités scientifiques du Coran ». Il est de qui? Les 1000 vérités scientifiques du Coran, j'ai oublié l'auteur. Toujours j'ai oublié l'auteur. Il est bien. De toute façon, il est bien. Les 1000 vérités scientifiques du Coran.
C'est Mohamed Yassine.
Mohamed Yassine?
Kassab.
Mohamed Kassab. Donc, les 1000 vérités scientifiques du Coran, vous allez trouver plein de miracles scientifiques. J'aime bien aussi les travaux de Haroun Yahya. Hein. C'est les travaux où je vous lis. Je vous invite, bon, bien qu'il ait un petit peu... Haroun Yahya, c'est... Bon, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Adnan Oktar. Il est turc. Il fait de belles publications. Il a beaucoup d'argent. C'est des scientifiques qui travaillent pour lui. Il les paye, donc il met son nom, etc. Lui, dans sa vie pratique, il est peut-être un petit peu à côté de la plaque. Mais les publications qu'il fait, c'est du beau travail. Donc, il contredit un petit peu les travaux, tous les travaux des évolutionnistes, c'est-à-dire ceux qui sont de la théorie de Darwin, etc. Lui, il leur montre que c'est le contraire. Alors, aujourd'hui, les miracles scientifiques, on a l'expansion de l'univers, ce n'est pas une théorie ancienne, c'est une théorie nouvelle. Mais le Coran, on parle avec détail sur cette question-là. On a l'évolution du fœtus, le Coran parle avec détail. On a comment... c'est-à-dire les différentes couches qui englobent le bébé quand il est dans le ventre de sa maman, le Coran parle de cela. On a la question des vagues qui sont au fond de l'océan, le Coran en parle. C'est le commandant Cousteau qui a découvert cela, et le prophète n'était pas un marin, hein, même s'il était un marin, ça c'est une découverte, pas longtemps, il faut avoir un matériel immense pour découvrir cela. Le Coran nous parle sur Ar-Rahman, hein, nous parle au milieu de la mer où tu as l'eau salée et l'eau douce, et entre les deux il n'y a rien, mais le Coran nous parle qu'il y a quelque chose qui les sépare sans le voir, d'accord? Donc on a le Coran nous parle de l'atome, le grand particule qui, d'accord, dhara, d'accord. Il nous parle de l'homme, quand plus il monte en haut, plus l'oxygène baisse. Ça, c'est détaillé dans le Coran al-Karim. Comment il s'appelle ce grand savant yéménite? Zandani. Il y a un grand savant qui s'appelle Zandani. Je ne sais pas si ses travaux sont... Je sais qu'il écrit en anglais. Zandani, un grand scientifique. Il a beaucoup écrit sur les miracles scientifiques. Donc, chaque année, vous avez des colloques qui se tiennent. Malheureusement, on n'a pas d'écrit en français. C'est des colloques qui s'étaient en anglais. Des savants musulmans et des chercheurs scientifiques musulmans et non-musulmans, ils se rencontrent. Et les musulmans, moi, j'ai rencontré quelques spécialistes dans ce domaine-là, ils présentent, ils vont vérifier les vérités scientifiques qui sont citées par le Coran al-Karim, qui sont des nouvelles découvertes scientifiques dans les mathématiques, en astronomie, en médecine, etc., et les chercheurs, les savants musulmans, dans les textes, que ce soit le Coran ou bien des hadiths, même on a plein de hadiths qui parlent, par exemple, le hadith qui parle de la médecine, la question du cœur. Il commence, il y a une étude qui est faite par la NASA, dommage, j'ai perdu l'article, j'ai essayé de le trouver, où ça parle que le cœur
du bébé qui naît, il commence le premier déclenchement, tac, c'est-à-dire pour comment que le cœur commence, c'est le 42e jour. D'accord ? Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Ahmed, un hadith bon, qui dit que l'âme, elle est insufflée dans le 42e jour, comme ça, 42. Et la publication scientifique de l'Anzal, elle dit que le cœur commence à battre au 42e jour. Donc ce détail-là, il est incroyable. Ce n'est pas 41, ce n'est pas 40, c'est 42. Dans le hadith, c'était 42, et dans la publication, qui date depuis de 3 ans, ça parle de 42. Donc on a des vérités scientifiques qui sont dans le Coran al-Karim, qui laissent, c'est-à-dire ça coupe le souffle. Hein. Et encore, quand j'ai parlé avec ce scientifique musulman, qui lui, il est spécialiste en économie, hein, c'est un financier, il m'a dit, c'est un ami, il m'a dit, et encore, on a des centaines de milliers de preuves scientifiques, mais nous, on ne fait sortir une preuve scientifique que si, scientifiquement, elle est vraie à 100%. Parce que tu as plein de découvertes scientifiques, mais après un moment, on dit, non, en fait, ça, ils ont trouvé autre chose. D'accord ? Mais sinon, il dit, nous, on a plein de choses. C'est-à-dire, on ne parle que si cette vérité scientifique, elle est... C'est-à-dire, elle est devenue, on va dire, absolue, c'est-à-dire, c'est indiscutable. D'accord ? La question du Big Bang, hein, la théorie du Big Bang, elle est citée dans le Coran al-Karim, al-fatq wal-ratq. C'est cité comme ça, fatq, ratq. Donc, elle est citée textuellement. Donc, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait quand même beaucoup pour un bédouin qui vit dans le désert, qui sait ni lire ni écrire, quand même. Il sait l'arabe, il sait tout ça, il sait l'histoire, il sait la science, normalement, on devrait trouver plein de fautes. Vous savez, les gens de Quraysh, s'ils avaient trouvé des failles, ils ne le rateraient pas. Surtout du point de vue linguistique, du point de vue arabe. Parce que c'est des Arabes, ils connaissent l'arabe. Parce qu'ils sont, ils sont venus les embêter dans leur foi. Hein, et c'est leurs ennemis. S'ils avaient quelque chose à lui reprocher, point de vue historique ou bien point de vue... Regardez, même il y a des choses qui sont de l'ordre... On va dire, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les identifiants et codes, c'est ça. Hein? Pour que tu rentres dans ton... Aujourd'hui, on a identifiant et un code. Alors, vous imaginez, il faut le Coran, même dans le Coran, il y a cela. Il y a des questions que des juifs, des chrétiens et des gens qui ont les anciens textes, et qui ont pas forcément dans la Torah ou les évangiles, ce qu'on appelle les textes apocryphes, c'est-à-dire des textes qui ont été retenus par les religieux anciens, mais ce sont des textes, on les retient, mais ça fait partie de choses qui ont été rapportées par les prophètes, d'accord ? Mais ils sont pas, on les retient, c'est des textes religieux. Alors, c'est écrit dans les anciens textes que si un prophète des derniers des temps, si vous lui posez telle question, il va vous dire telle chose. Ce n'est pas une question de juste ou faux. Non, je te dis stylo, tu me dis fenêtre. C'est-à-dire impossible de la trouver. Est-ce que vous comprenez ? L'identifiant n'a rien à voir avec le code secret, vous êtes d'accord ? Quand tu l'identifiant, c'est, je ne sais pas quoi, 1990, c'est secret, tu mets ce que tu veux. AL, machin, 0, étoile. Alors le prophète, ce sont des questions qui ont été posées dans ce sens. « Wa yas'alunaka 'ani ar-ruh »« Qul dealer » Si on vient te poser la question sur l'âme, la réponse serait ça. C'est une phrase. C'est-à-dire, ça c'est l'identifiant, ça c'est le code. C'est pas, on te pose une question, parce que s'il a répondu une réponse générale sur ce qu'est ce que l'âme et Batéta, ils vont dire, tu n'es pas un prophète. Nous, on a dans les anciens écrits un vrai prophète, quand tu lui dis, je schématise, quand tu lui dis maison, il va te dire souliers. C'est-à-dire, c'est pas une question que tu... C'est-à-dire, soit tu as l'information, soit tu l'as pas. Soit tu as la révélation, soit tu l'as pas. C'est pas une question, tu es un mathématicien, je te donne une fonction, tu la trouves. Non, c'est code, ce que vous avez compris. La question sur l'âme qu'on a posée au prophète, Allah lui a dit, réponds-leur cette phrase. C'est cette phrase que tu dois dire. Ni plus, ni moins. Textuellement. Il a dit la phrase. D'accord ? On te pose la question sur l'âme, dis-leur que l'âme, ça fait partie des choses de Dieu. Et vous avez un petit peu de science. Donc là, le prophète, est-ce qu'il a défini l'âme ? Est-ce qu'il a parlé de l'âme ? Il n'a pas parlé. Bien que la question, c'était piège. C'est quoi l'âme ? Pour quelqu'un qui c'est-à-dire qui un faux prophète, c'est quoi l'âme? Il va commencer à parler de l'âme. Mais lui, non. Il n'a pas parlé de l'âme. Bien que chez nous, musulmans, on a des grands ulama qui ont détaillé la question de l'âme. Elle est faite ceci, cela, on va l'étudier. Nous, on a des écrits. À un autre niveau, les ulama, ils ont dit, voilà comment elle est faite, l'âme, où elle se trouve, etc. Imam Malik, Imam Ibn Qasim, Imam Lazni al-Salam, ils ont parlé de l'âme. Bon, alors, le prophète, il ne parle pas. D'où ils ont ramené ça? Mais ici, dans cette question-là, il y a plusieurs reprises, donc, il y a des juifs et des chrétiens qui sont venus, qui ont des anciens textes, qui sont venus pour tester le prophète. C'est pour voir si c'est un vrai prophète. Il lui lance cette question. Voyas al-Unaka, dans le Coran al-Karim, on a cette question. Voyas al-Unaka, et si on te pose cette question, tu dis ça. C'est-à-dire, laver les identifiants et les codes. Des anciens écrits qui existaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, ça ne peut pas être un texte qui n'est pas révélé. C'est pas possible. Si c'est pas un texte révélé, ah ben, montre-moi un. Il n'y a pas un défaut dans ce livre-là. Au moins scientifique pour les gens d'aujourd'hui. Et quand c'est le texte que Allah a dit dans le Coran al-Karim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, nous avons révélé ce livre-là et c'est nous qui se chargerons de sa protection jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, le texte, il existe déjà depuis 15 siècles, il n'a pas été falsifié. Et nous sommes garants qu'il ne sera pas falsifié jusqu'à la fin des temps. Et puis, c'est un texte qui va être, c'est-à-dire lui-même, sans falsification, jusqu'à la fin des temps. Donc, il est amené à garder son côté miracle jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, tous les espaces-temps, il doit les défier dans leur domaine. Aujourd'hui, on est dans un monde de technologie et de découvertes scientifiques. C'est pour ce que là, le Coran nous sort six miracles. Demain, on ne sait pas quel serait demain. Demain, peut-être le numérique, je ne sais pas. Peut-être ça sera un autre monde, je ne sais pas. Il va nous sortir ces choses-là. Parce que les sahaba de l'époque, ils ne savaient pas ces choses-là, scientifiques, ce n'est pas de leur monde. Mais ils étaient scotchés sur les questions linguistiques qui est le défi de leur époque. Est-ce que vous avez compris?
Mais c'est pour vous la version originale? Qui possède la version originale après?
Elle est à Topkapi, celle que dans le grand musée à Topkapi, on avait plusieurs versions originales qui ont été écrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui se trouve à Topkapi. Il y a même le son qui a été, parce que c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Uthman ibn Affan, il était en train de lire quand ils sont rentrés pour le tuer, donc ils l'ont frappé du sang à gicler sur le Coran. Il y a même des traces de sang, elle est gardée à Topkapi, mais il y a une aussi au nazis, c'est en Turquie, dans le grand musée. Je pense que Poutine, une fois, Poutine a parlé d'une aussi qu'il avait, et je pense qu'en Russie, je ne suis pas sûr, hein, mais des amis russes m'ont parlé d'une copie aussi qui ont préservé. Donc on a des anciens textes. Nous, on n'a pas de problème sur la question de l'originalité. Parce que pourquoi? Une fois, ça m'a plu, j'ai vu dans un débat, dans une grande salle où il y avait 20 000, 30 000 personnes aux États-Unis. Je n'étais pas là-bas, hein, j'ai vu ça dans une vidéo. Il y avait un débat entre des chrétiens, des juifs, des musulmans, on débattait sur les textes. Alors, pour parler de l'origine des textes, le chrétien, il a parlé, le juif, il a parlé. Le musulman, il a dit, moi, je vais poser une seule question. C'était une salle où il y avait vraiment du monde. Hein. Il a dit, c'était aux États-Unis, je ne me rappelle pas la ville. Il a dit, je pose une question dans cette salle, les musulmans qui connaissent le Coran par cœur, levez la main. Minimum, il y avait 1500 personnes qui ont levé la main. Il a dit, regardez, juste dans cette salle, vous avez 1500 personnes qui connaissent par cœur, le Coran. Alors, ça, dans cette salle, si je dis dans la ville, il y en a combien? Si je dis dans le monde, il y en a combien? Vous avez des millions de personnes qui connaissent le Coran par cœur, chaque époque. Jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est la chaîne de transmission qui est solide et qui tient la route. Il n'y a pas une époque où il n'y avait pas de mémorisateur. Même pour les hadiths que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait. Donc, il y a cette question de garder... c'est-à-dire la chaîne de transmission, c'est ça la chose solide la plus importante. C'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appris le Coran à ses compagnons,
La majorité des compagnons le connaissent par cœur. Ils ont transmis à leurs élèves. Ils ont transmis à leurs élèves. Dans chaque époque, vous avez des centaines de milliers. Aujourd'hui, vous avez des millions qui connaissent par cœur. Donc, il n'y a pas une époque où il n'y a pas. C'est écrit dans un livre, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça, ça donne la crédibilité du texte. Oui.
Est-ce que l'ordre des sourates, dans le temps, elle a déjà changé
ou... Non. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, quand il reçoit une révélation, il dit cette sourate, ce verset, il est dans telle sourate. C'est-à-dire la chronologie des sourates, c'est le prophète qui l'a fait. D'accord. C'est-à-dire la chronologie des versets, la chronologie des sourates, c'est le prophète qui l'a fait. D'accord. Donc voilà. Donc tous les prophètes ont dit miracles. Et tous les, ce qu'on voit aujourd'hui, quand vous voyez des grands saints qui ont des prodiges, on parlera, Inch'Allah, des prodiges, c'est le prodige n'est qu'une, c'est-à-dire quelque chose de plus. Et attention, le miracle d'un prophète, il reste miracle jusqu'à la fin des temps. C'est pas parce que le prophète, il va défier sa communauté, il va défier les autres aussi. C'est-à-dire que ça reste un défi pour l'humanité. Donc on va se limiter à cela, Inch'Allah. La prochaine fois, je pense qu'on a terminé avec la question des prophètes. Sauf que, rappelez-moi, je vous rapporterai le hadith qui dit, il y a un hadith qui dit que le nombre de prophètes sont 24 000. Je ne l'ai pas, il faut le noter et il faut que je vous le ramène la prochaine fois. Vous avez cours tout à l'heure, hein, c'est ça, de civilisation. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. Est-ce que tout le monde est inscrit? Tout le monde? D'accord. Tout le monde est dans le groupe WhatsApp? Tout le monde? Qui est-ce qui n'est pas dans le groupe WhatsApp? D'accord. Vous donnez le numéro de téléphone comme ça, il vous ferait avant.